Everyone knows that it's not Valentine's without 1-800-Flowers.com. So whatever you do, don't forget the flowers. Right now, when you order early from 1-800-Flowers, you can get a gorgeous bouquet of assorted roses starting at $24.99. It's the perfect way to say I love you without breaking the bank. Don't put this off. Quantities are limited, so lock in your roses starting at $24.99 today at 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Salut les extraterriens. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode spécial de notre série Les extraterriens du business, le rendez-vous des personnes qui créent le sport de demain. Notre invité du jour est un réel passionné des compléments alimentaires pour sportifs. Il lit tous les jours des études scientifiques et il y a quelques années, il a racheté la célèbre marque de compléments alimentaires et de protéines Nutrimuscle. La reprise de la marque s'est faite dans une histoire rocambolesque qu'il va nous raconter. Il va nous expliquer aussi comment est-ce qu'il a fait transitionner toute la marque, mais aussi la création d'une seconde entreprise NutriElement qui s'adresse à un public beaucoup plus large, de coureurs, d'urbains ou tout simplement de personnes qui ont envie de progresser et d'avoir un petit coup de pouce grâce à l'alimentation ou la complémentation. Théo nous a partagé tous les mensonges qu'il pouvait y avoir dans cette industrie. Il nous a aussi parlé des compléments qu'il recommande directement pour les coureurs, notamment qui débutent avec la complémentation. Et il a passé en revue toutes mes routines sportives. C'était un vrai coaching personnalisé. Vous allez le voir, c'était passionnant. Bon, si vous êtes soucieux de savoir ce que vous consommez, si vous souhaitez progresser grâce à la complémentation ou tout simplement avoir une meilleure santé, je vous recommande d'écouter cet épisode jusqu'au bout. C'était une véritable masterclass. Pour vous prévenir, comme je consomme leurs produits régulièrement et que j'en apprécie la qualité, j'ai proposé à Théo que NutriElement soit le sponsor de cet épisode. Il a accepté et je le remercie chaleureusement. Donc pour découvrir la marque NutriElement, rendez-vous dans le premier lien en commentaire. Sache que je ne connais aucun athlète de haut niveau qui ne se complémente pas, donc si tu as envie de progresser, c'est sûrement un curseur de performance que tu devrais actionner. Juste avant de commencer, je te rappelle quelques petites règles. La première, c'est de penser à t'abonner, c'est vraiment ce qui nous aide le plus à progresser. Et ensuite, tu peux mettre 5 étoiles ou un pouce vers le haut si tu as aimé le contenu. Allez, je t'embête pas plus et je te souhaite un très bon épisode avec Théo Coppolatta. Salut Théo.
Salut.
Comment vas-tu?
Super, super.
Je suis trop content d'être là. Je suis vraiment ravi de te rencontrer. On est là pour le deuxième épisode de la série Les extraterriens du business. Le but, c'est de rencontrer des super entrepreneurs que je suis et dont j'apprécie le travail et à la fois de comprendre leur vision du sport, leur vision de la performance et aussi de prendre quelques petits conseils un peu entrepreneuriaux comme un mentor. Toi, tu as fondé NutriElement. Là, tu as racheté la société Nutrimuscle. Un gros mastodonte du complément alimentaire, en tout cas dans le fitness en France aujourd'hui. T'as racheté cette boîte, tu vas nous raconter un peu comment ça s'est passé. Je crois que ça a été rocambolesque.
Exactement.
T'as donné des nouvelles valeurs, une nouvelle vision, une nouvelle image, beaucoup de nouvelles choses. Tu te passionnes aussi beaucoup pour le produit, donc on va parler vraiment qualité des produits aujourd'hui. Et je suis content de parler de tout ça. Mais avant, il y a une question traditionnelle. Les 300 invités du podcast ont dû répondre à cette question. C'est quels sont tes premiers souvenirs de sport?
Alors, moi, je suis un enfant des années 80, donc le vrai premier souvenir qui m'a marqué, qui trahit aussi un peu, je pense, ma passion pour notamment les compléments alimentaires, mais c'est 1998. Je pense que tout le monde a en tête la Coupe du Monde. Moi, c'est pas du tout ça, en fait, c'est rigolo, mais c'est Mister Olympia, Ronnie Coleman, qui gagne la finale de bodybuilding pour la première fois. Et ça m'a vraiment marqué parce que c'est ça qui m'a donné envie de me mettre au sport. Alors, c'est assez rigolo parce que tu penses bodybuilder, etc., surtout quand t'es encore un peu petit. Mais le fait de voir, ça me faisait penser à Hulk, ça me faisait penser à Superman, des gens comme ça. Et moi, je voulais être un peu un super-héros, on va dire. Et ça m'a vraiment inspiré sur le parcours et la suite que j'ai donnée par rapport à ça.
Ok.
Donc, c'est ça. C'est octobre 98. C'était beau à voir. Après, faut aimer. C'est des sports un peu, je peux dire extravagants, mais assez intéressants à regarder.
Je savais pas que c'était aussi tard. Pour moi, Ronnie Coleman, c'était le début des années 90, mais je me trompe, tu connais mieux que moi. Alors, pour les gens qui savent pas, quand même, Ronnie Coleman, c'est la grande succession de Arnold Schwarzenegger. Combien de titres il a eu à Mister Olympia?
Il a fait 98-2005, de mémoire. Donc, il a vraiment repoussé les limites sur... C'est assez intéressant, en fait, parce que quand tu reprends... on va pas parler de l'histoire du bodybuilding, mais On est pile dans la période où il y a eu un shift dans le régime alimentaire, donc ça concerne un peu tous les sportifs, mais qui a été poussé surtout par des tendances marketing de dire il faut manger plus de glucides, alors que l'époque Arnold, par exemple, on était sur des diètes qui étaient très paléo, très keto, très peu de glucides, beaucoup de protéines, beaucoup de lipides. Et il y a eu un shift en fait sur le marché à la fin des années 80, début des années 90, qui a été fait sur la consommation de glucides, en partie poussé par le gouvernement américain, gros producteur de blé, de soja, etc., de maïs notamment. Mmh. Donc ils ont vraiment fait des politiques pour inciter les gens à plus consommer. Et ça s'est aussi reporté sur toute la partie bodybuilding. Et on le ressent en fait dans la prise de masse qui a été possible grâce à ça.
Ok. Ils en reviennent un peu, les Américains, aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, en tout cas, et coachs.
Un gros shift, je vais pas dire santé, mais on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être pas le bon régime alimentaire, en tout cas dans les proportions que prenait, et on est passé sur quelque chose de plus healthy, on va dire.
Ok. Donc, premier souvenir de Ronnie Coleman,
On doit pas être beaucoup.
Non, mais en tout cas, pour les curieux, vous tapez Ronnie Coleman sur Google, vous allez voir le personnage. C'est un personnage impressionnant avec effectivement un physique absolument hors norme. Maintenant, qui est encore vivant, mais qui est dans un état un peu catastrophique.
Ouais. C'est un peu les abus sur les substances non autorisées, on va dire.
Ouais. Mais autorisées aux États-Unis dans le cadre du bodybuilding, quoi.
Oui.
Plus ou moins.
Ouais, c'est vrai.
Ça. La législation est un peu différente avec eux, mais bon. T'as pratiqué quelques sports, toi ?
Ouais, j'ai fait du judo. J'ai commencé à 3 ans, parce que mon frère en faisait. Je voulais absolument rentrer dans le club, d'après ma mère, à 3 ans. Alors que c'était qu'à partir de 5 ans, je crois, mais ils m'ont quand même laissé. J'ai fait de 3 ans à 17 ans, non-stop. Je suis allé jusqu'à la ceinture marron. Je me rappelle qu'à l'époque, pour être ceinture noire, il fallait avoir une...
18 ans.
18 ans, ouais. Ouais, 18 ans. Ça m'a énervé pendant... J'étais marron assez jeune, en fait. Ça a été très énervant, frustrant, tu vois, de se dire, maintenant, t'as pas l'âge, donc tu peux pas passer la ceinture. Donc, je me suis tenu ça pendant plusieurs années. En fait, je suis parti, j'ai déménagé au Japon, etc. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai fait du judo au Japon. Ça n'a rien à voir à ce qu'on fait en France.
Vas-y, raconte, je suis curieux.
Je pense que... T'as certains dojos où on arrive un peu à avoir cet enseignement japonais du judo, mais tu sais, les Japonais, ils sont très spécialistes et ils sont dans la logique de pendant 10 ans, tu vas faire le même mouvement et tant que tu l'as pas maîtrisé, tu passes pas au mouvement suivant. Et ça se ressent dans le judo japonais. Il y a une demande qui est forte sur la pratique, sur l'exécution parfaite du mouvement, qu'on n'a pas vraiment en France. En France, on a plus tendance à être polyvalent, à avoir plusieurs mouvements pour essayer de comprendre le sport, pour sortir plusieurs techniques pendant le combat. Alors qu'au Japon, c'est vraiment pendant un an, en fait, tu fais qu'un mouvement. Tu vois, pendant un an, tu fais toujours le mouvement. Et si t'es pas bon, l'année d'après, tu continues. Et quand tu l'as perfectionné, t'es parfait, tu changes les mouvements. Donc ça a été assez étrange, avec une pratique qui est très intense au niveau... tu sens qu'ils ont la passion, quoi. T'es pas là pour jouer, pour rigoler, c'est très passionné. Donc ça m'a beaucoup surpris, j'ai beaucoup aimé.
Ok, c'est un peu... Peut-être ça fait penser un peu à ce qu'il y a dans le karaté, non ? Karaté, on voit beaucoup ça, c'est un kata par an ou un kata par ceinture. Enfin, les experts me contrediront si je dois dire des bêtises, mais j'essaie de vulgariser ça un peu simplement.
C'est pareil. Je pense que c'est vraiment la manière de faire japonaise qui est très concentrée sur la perfection du mouvement avant de passer des steps.
Ok. Toi qui as vécu là-bas, je fais une toute petite aparté et puis après je te demanderai effectivement comment est-ce que tu arrives dans le milieu des compléments alimentaires. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette culture ? Qu'est-ce que tu as apprécié au Japon ? Ça, je suis très curieux.
Tu vois, moi, j'y suis allé quand j'étais lycéen. Donc, j'ai fait une année de lycée là-bas. Le système japonais est très basé sur le système américain. Donc, ce qui est super au niveau de les possibilités qui sont offertes sur faire du sport, par exemple. C'est vrai qu'en France, tu vas à l'école, le sport, c'est du club en activité extrascolaire. Principalement, au Japon, c'est intégré dans le cursus. C'est-à-dire que tu finis les cours à 14 heures et tout le monde fait une activité sportive. Donc, ça, c'est super. Après, c'est un pays qui est, je dirais, assez similaire à la France. Je pense que c'est aussi pour ça que t'as beaucoup de bonnes relations entre la France et le Japon, parce que il y a une grosse culture, il y a aussi une grosse culture gastronomique, ils sont beaucoup sur l'alimentation, etc. Donc c'est très similaire et la façon de penser est assez similaire. Après, ils sont très hiérarchiques, c'est très organisé, en fait, tu vois. Je pense que les Japonais, c'est des Français qui sont très très processés, donc c'est un peu différent. Tu enlèves l'esprit latin du français, tu deviens peut-être un Japonais, je pense. C'est un peu le...
Ok.
Ouais, exactement.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux, ouais, que dans les Japonais, tu vois, un peu, ça me fait penser à l'histoire du judo, puis le film aussi, Hero Dream of Sushi, je sais pas si t'en as entendu parler, ce maître sushi qui est dans le métro, et puis 4 ou 5 sushis différents, et avec une dizaine de personnes tous les soirs, mais bon, ça coûte une fortune. Des gens très consciencieux, en fait.
C'est des artisans, les Japonais. Et ça s'applique, en fait, dans le sport aussi. Ce qui est impressionnant au Japon, et peut-être que nous, on le perçoit pas trop, mais quand tu regardes le foot, par exemple, au Japon, on n'a pas l'impression qu'ils sont forts dans les classements, etc. Alors que dans le pays, ceux qui font du foot, mais c'est vraiment, ils pratiquent tout le temps, tout le temps, tout le temps. À partir du collège, tous les jours, t'es au collège, tu vas, les écoles sont ouvertes le week-end. Donc ils vont faire le sport, donc ils vont faire du foot, 10 heures par jour, samedi, dimanche, ils font que ça. Et en fait, c'est vraiment cette retranscription de la mentalité de perfection, tu vois. Et ça se reporte sur l'artisanat japonais. Les meilleures chaussures, tu peux les trouver au Japon, parce que celui qui le fait, bah, pendant 10 ans, il a fait que limer des semelles avant de pouvoir construire la chaussure. Et dans toutes les strates du travail japonais, tu le retrouves. C'est cette notion d'artisanat, d'aller jusqu'à la perfection. Tu vois, les golfeurs ou même les runners, il y a le mouvement, ils vont travailler le mouvement. Tu vois, c'est comment je positionne mon genou, la chaussure, quelle chaussure je prends par rapport à la structure de mon pied. Et ils vont très, très loin dessus. Mmh. Je pense que c'est l'un des pays qui va très, très loin dans cette manière de penser. Et c'est ça qui fait, je trouve, qui donne un certain esprit et une certaine beauté sur la façon de faire au Japon.
Ouais. Cette culture de la précision, ouais, c'est quelque chose qu'on a un peu moins dans l'esprit francophone, dans l'esprit latin et puis même anglo-saxon, quoi. Mais ok, hyper intéressant. Comment est-ce que tu arrives dans le monde des compléments alimentaires? C'est pas anodin quand même.
Ouais, je pense que ça a été porté par les années Olympia, hein, ou super-héros, tu vois, où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que les personnes, elles arrivent à être musclées, en fait? Et tu te rends compte, en fait, que t'as une grosse part de régime alimentaire, donc comment tu vas gérer ton alimentation, etc. Et t'as ce rajout qui est la complémentation, qui fait que moi, j'ai fait du judo jusqu'à mes 17 ans. Dans le judo, t'as une part un peu d'entraînement physique, on va dire, notamment sur les dorsaux, etc. Parce qu'il y a beaucoup de prises qui impliquent des mouvements de force. Et c'est comment tu fais pour aller un peu plus loin dans la compétition? Bah, tu vas te poser un peu les bases sur ta nutrition, parce qu'à un moment, il n'y a pas que le talent ou, tu vois, les prédispositions. Et c'est comme ça que j'y suis arrivé. En fait, c'est vraiment de se poser la question de comment je peux être meilleur, par quels moyens, en plus de la technique. Et moi, je l'ai vraiment trouvé dans la complémentation. Et c'est ça que j'ai commencé à m'intéresser assez jeune, en fait, à la complémentation, que ce soit les vitamines, les protéines, les acides aminés, à une époque où, tu vois, début des années 2000, c'était pas encore très développé. T'avais quelques compléments, mais on n'était pas dans les tendances qui ont été portées par les réseaux sociaux notamment. Et t'avais pas vraiment Internet aussi développé qu'on l'a maintenant. Donc j'ai beaucoup commencé avec des livres sur la complémentation et je me suis intéressé petit à petit. Voilà. Ce qui a fait que, en fait, j'ai jamais vraiment lâché cette partie, on va dire, éducative sur les compléments. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours impliqué dans abonné à des revues scientifiques. Tu vois, PubMed qui est un site qui va regrouper énormément d'articles scientifiques.
T'arrives à lire, toi, ces articles-là?
Ouais, okay. Ça prend un peu de temps. Tu vois, les études scientifiques, il faut jamais les prendre pour content, parce que t'as plusieurs sortes d'études, en fait. T'as des études sur plusieurs types de cohortes, donc des segments de personnes qui sont assez différentes. T'as des études sur le même complément, par exemple les oméga, on va te dire, bah ça marche, dans une autre étude, ça marche pas. Dans une autre étude, ça marche à moitié. Et en fait, t'as 5 000, 10 000, 20 000 études sur un complément. Et après, t'as des méta-analyses. Donc ça, c'est des regroupements d'études où ils vont tirer des tendances sur, tu vois, par exemple, sur 10 000 études, si t'en as 8 000 qui te disent que ça marche, bon, bah, ça veut dire que, en gros, ça marche. Pour dégrossir, c'est un peu ça. Et lire une étude, ça veut pas dire que c'est véridique. Il faut pas rechercher une réponse dans une étude, en fait. Je pense que l'étude, ça va te permettre de mieux t'éduquer, de mieux comprendre comment ils l'ont réalisé. Moi, ce que je regarde toujours dans l'étude, c'est qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Si c'est un complément, par exemple, le complément, qui est le fabricant, quelle forme ils ont pris, la cohorte, donc quel type de personne a utilisé le complément. Forcément, quand tu as des études, on va dire, sur la perte de poids avec un complément et que, en fait, les personnes qui ont été étudiées, c'est que des personnes en surpoids, il y a quand même des facteurs limitants parce que ils changent en même temps le régime alimentaire de ces personnes en plus de leur donner un complément. C'est forcé qu'il y ait une perte de poids. Donc après, il faut rebalancer ça sur une cohorte de personnes qui est normale, qui est pas forcément surpoids, qui modifie pas son régime alimentaire pour voir s'il y a les mêmes effets ou pas. Et en fait, c'est la répétition d'études dans plusieurs pays, par plusieurs universités, qui fait que tu peux jauger qu'un complément est utile ou pas utile ou intéressant pour les personnes que tu cibles. Donc nous, en l'occurrence, les sportifs.
Ok. Bon, ça prend du temps. Toi, t'as de l'assiduité. Moi, je sais qu'au bout de 10 minutes, j'ai un peu les yeux qui pleurent face à ce genre d'études-là. Mais j'apprécie ta patience, tu vois. Je retrouve ton côté japonais.
Ouais, c'est plus une routine. Tu vois, si on doit parler de... Il y en a, ils se lèvent le matin, tu vois. Moi, ma routine, c'est je me lève, je prends mes compléments, je fais mon petit-déj. Et quand j'arrive au boulot, bah, je lis mes études. Je passe une petite demi-heure, une petite heure sur les nouveautés, etc. Donc moi, je l'inscris vraiment dans une routine qui me permet en fait de suivre et d'être au fait des dernières tendances, des dernières études, etc. Sans que ça soit perçu comme un travail de recherche, tu vois, à faire. C'est plus, tu vois, tu feuillettes le journal, moi, je feuillette les études.
Ok. Bah, juste après, tu vas me dire ce que tu prends comme complément, toi, et puis un peu les études qui ont, on peut dire, qui ont marqué un peu les dernières années ou ce qui, toi, te semble important de révéler au public. Mais je suis curieux de savoir, tu vois, d'un point de vue entrepreneurial, comment est-ce qu'on passe d'un, je vais pas dire simple consommateur de compléments, à CEO, tu vois, justement, d'une des plus grosses boîtes de compléments alimentaires en France, tu vois. C'est pas anodin, enfin, je veux dire.
C'est vrai. Alors, c'est une longue histoire qui est assez intéressante. En fait, moi, le premier complément que j'ai pris, c'est en 2006. Sur le site Nutrimuscle. Donc, c'est une société que j'avais trouvée parce qu'ils étaient très forts sur la partie scientifique. Et moi, en fait, je me documentais, donc ça tombait plutôt bien. J'ai été client de cette marque-là jusqu'à aujourd'hui, parce que je suis toujours client de ma propre marque, du coup. Ce qui s'est passé, c'est que, étant grand passionné de musculation, de sport, je faisais aussi du rugby après le judo, donc toujours un peu associé à la complémentation en acides aminés, en protéines, voilà, pour pouvoir continuer en fait à performer. J'ai toujours été client, toujours été passionné, et c'est une marque qui, chez moi, suscitait énormément d'admiration par le sérieux de la marque, le sérieux des études qui étaient publiées. Et en fait, l'histoire, elle se décompose. Il y a eu trois grosses périodes qui m'ont amené en fait à reprendre la marque, à la racheter. La première, c'est en 2011. Je m'étais lancé un peu le défi entrepreneurial d'essayer de racheter la marque. Donc en 2011, je me dis, je vais aller voir le fondateur de Nutrimuscle, qui habitait au Luxembourg à l'époque et qui avait son usine en Belgique. Donc sans le prévenir, bien entendu, tu sais, jeune, fougueux, je me suis dit, allez, je prends un billet de train et je suis allé le rencontrer.
Il y en a vraiment qui font ça, quoi.
Je savais où il habitait, je savais où était l'usine.
C'est courageux, moi j'aurais jamais le courage de faire ça.
J'y suis allé, donc je suis allé frapper à la porte de son usine.
Ok.
Il m'a pas ouvert au début. C'est quelqu'un qui était très suspicieux de base, un peu parano. Donc même l'usine, tu savais pas que c'était une usine, c'est presque caché, quoi, genre labo. Et donc je suis allé frapper à la porte, il m'a pas ouvert, j'ai attendu, je me suis posé, j'ai fait le pion toute la journée, parce que j'étais arrivé en fin de matinée sur le train qui t'amène là-bas. J'ai attendu toute la journée et en fait il est sorti, je voyais les ouvriers sortir, tu vois, 18h. J'aurais posé la question, ils m'ont dit non, il est dans les bureaux. Donc j'ai refrappé, bien entendu il m'a pas ouvert. En fait je l'ai pris au moment où il sortait. Le soir, vers 20h, je crois qu'il était 20h, 21h. Donc, moi, j'avais attendu presque 12h, tu vois, dehors. Et à ce moment-là, je lui pose la question en lui disant, voilà, je suis super intéressé par la marque, j'aimerais faire quelque chose avec vous ou si vous voulez la vendre, etc. J'aimerais bien me positionner pour la prendre. Bien entendu, il m'a traité de débile, de tous les noms, etc. Mais il avait la cinquantaine. Donc, je m'étais dit, tiens, en fait, ça se trouve, il est proche de l'âge de la retraite. Il y a peut-être quelque chose à faire dans plusieurs années. Et donc, avec cette première approche, malgré tout, on est resté en contact. C'est assez intéressant. Il m'a repoussé en disant non, jamais de la vie, c'est ma société, c'est trop compliqué, je veux pas la donner ou je veux pas la vendre, elle va rester avec moi, etc. Et on est resté en contact, hein, parce que j'étais aussi client et j'étais un bon client. Tu vois, j'étais un peu dans le top 5 des meilleurs clients sur...
Faut le faire, hein.
Ouais. Non, j'étais vraiment, tu vois, je crois que c'est la passion, c'est le fait de vouloir découvrir les trucs, les compléments, tester, etc. Et je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport à l'époque. Donc, il y a aussi ça aussi, quand t'es vraiment axé sur la performance, je pense que t'as envie de, voilà, d'avoir une bonne complémentation et ça se répercute dans tous les sports.
Je confirme, moi, j'ai un budget complément à l'année qui est affolant, quoi.
Et tu vois, ça va plus loin, c'est les habits, c'est comment tu te...
Bien sûr.
Quand tu penses dans le sport, ta vie est tournée là-dessus, quoi. T'es vraiment à fond dedans. Tout tourne autour de ça, donc ce qui fait que on est resté en contact. En 2013, je suis allé le revoir en me disant bon bah puisqu'il veut pas vendre sa boîte, peut-être que moi je peux la développer pour lui à l'étranger. Et je m'étais dit elle est implantée en France, elle est bien connue, il va pas vouloir, mais il parle pas anglais. Peut-être que ça va l'intéresser de qu'on aille un peu plus loin ensemble, qu'on développe, etc. Je lui avais posé la question et il m'avait dit bon si tu veux on en parle pour un déjeuner la première fois. Je me dis waouh, il a fait un step up. Et je suis allé le revoir en 2013. À ce moment-là, on a parlé et il commençait à me dire, en fait, je commence à réfléchir à la retraite. Je vois que t'es quand même un passionné. On se ressemble sur la partie produit, etc. Ça m'intéresse. Mais j'ai pas envie de développer la marque, en fait. J'ai envie de continuer sur les prochaines années et on verra un peu plus tard, mais on reste en contact. Donc, OK. Moi, à ce moment-là, j'avais une autre entreprise spécialisée dans le, qui a rien à voir, hein, dans les réseaux informatiques. Donc, je faisais des installations dans des, principalement des cabinets dentaires. C'était au moment où tu avais l'avènement de l'ouverture, en fait, des centres dentaires dans Paris, tu vois, par exemple, dans les grandes villes, où les dentistes se regroupaient pour créer des centres, que ça soit plus facile d'accès, etc., etc. Et la problématique qu'ils avaient, c'est que les radios panoramiques, ça pouvait pas se connecter à plusieurs ordinateurs. C'était un problème de licence, etc. Et en fait, moi, j'arrivais à, par le biais des installations réseau, à faire que tu aies une panoramique pour tout le monde et avec des fichiers partagés, des serveurs NAS, etc. pour élaguer le centre. Et donc, je faisais ça. C'est un autre projet entrepreneurial qui était plutôt plutôt intéressant à l'époque. Et en 2013, quand il m'a refusé, je me suis dit, bon, bah qu'est-ce que je vais faire? Bah, moi, je vais créer ma marque de compléments alimentaires aux États-Unis. Et je vais faire un copycat de Nutrimuscle. Ce que j'ai fait, donc j'ai monté une boîte en Floride, à Miami, où j'ai dupliqué vraiment le modèle. J'avais rappelé tous les fournisseurs de Nutrimuscle. Ce qui est super, en fait, chez nous, c'est que on a une transparence totale et une traçabilité totale sur les fournisseurs. Ça veut dire que c'est un, je pense que c'est un point d'honneur dans le souci de transparence. C'est de montrer d'où proviennent les matières premières. Parce que la marque est fière, en fait, de ses producteurs et veut les mettre en avant. C'est ce que tu retrouves quand tu vas, je sais pas, dans des magasins de fruits et légumes ou tellement des producteurs, quand les gens sont contents, en fait, ils veulent afficher la provenance, c'était exactement pareil. Et comme tu avais toutes les informations disponibles, bah, je me suis dit, je vais tous les appeler et je vais leur dire, je monte Nutrimuscle Made in USA aux États-Unis. J'ai fait ça en 2013 avec un associé franco-américain. On est parti aux US, on a ouvert un petit labo pour, on s'est enregistré, on a fait toute la procédure pour lancer une marque. On a monté les statuts, etc., site internet, et on a commencé à vendre en poussant à fond sur les forums, tu vois, spécialisés, pour vraiment essayer d'atteindre cette clientèle un peu niche, très focus sur les matières premières, les bons compléments, etc. Ce qui est assez intéressant aux États-Unis, c'est que ils ont 10-15 ans d'avance sur les compléments alimentaires. Ça veut dire que le développement de nouvelles formes de compléments, la découverte de molécules, ils sont bien plus en avance et bien plus rapides sur la partie autorisation. Donc, l'organisme américain va vraiment autoriser très rapidement les nouveaux compléments alimentaires, ce qu'on appelle les novel foods, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe, où on a 10 ans de retard, 15 ans de retard avec les États-Unis. Le pendant à ça, c'est que l'Américain moyen, dans les années 2010, n'avait aucune idée de ce qu'il prenait en termes de compléments alimentaires. À partir du moment où le complément, je sais pas, la vitamine C s'appelait vitamine C, il prenait, il se posait pas la question de la forme, de dosage, grammage, concentration, etc. Idem pour la protéine. C'était de la protéine, c'est de la prote. Et nous, on s'est retrouvés face à un mur de, déjà, manque de transparence. Tu vois, par exemple, il y a que très récemment que quand tu avais un mix d'ingrédients, tu affichais la composition réelle de combien de grammes ou de milligrammes tu as d'ingrédients. Avant, c'était un blend. T'avais pas besoin de marquer ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui faisait que tout le monde mettait un milligramme et disait, oui, il y a de la carnitine dedans, par exemple. Tu vois, alors qu'en fait, un milligramme, c'est pas une dose utile. Et nous, on est arrivé là-dessus avec la vision, tu vois, de transparence, de traçabilité, un peu à la française, de terroir sur les produits. On a commencé à essayer de vendre. Ça s'est pas du tout vendu. En fait, ils nous disaient, mais le price point, il est trop haut. On comprend pas les produits. Les arômes, c'est pas assez sucré. Tu vois, on s'est même trompé sur la formulation des arômes. Parce que c'est le palais américain, c'est pas le palais français non plus. Et quand on est arrivé à là, la bonne et mauvaise idée qu'on a eue, c'est on s'est dit, mais attends, en fait, comme on a des produits qui sont réellement dosés, on sait exactement le grammage qu'on met, d'origine laitière pour les protéines, c'est-à-dire filtrées directement du lait et pas des choses qui viennent des résidus de l'industrie du fromage, on s'était dit, on va prendre des concurrents, on va prendre nos produits, nos vitamines, nos minéraux, nos oméga, et on va les tester dans un labo. Donc, on les a fait tester dans l'équivalent de Eurofins, un laboratoire d'analyse, et on a affiché les résultats sur des forums, etc., en disant, attention les gars, quand ils te disent tu as 200 mg de vitamine C, réellement dans le complément, t'en avais 50. Donc on a fait ces tests, on les a affichés publiquement. Bien entendu, on a eu la mauvaise idée de laisser le nom des marques des concurrents, en disant, les gars, nous, on a des meilleurs ingrédients, on a des vraies formules, on a des vrais taux qui sont indiqués sur les étiquettes. On s'est fait attaquer de toutes parts par les marques. Ça nous a fait fermer la boîte assez rapidement, avec toute la merdouille qui s'est passée après. Donc moi, je suis revenu en France suite à ça. J'ai travaillé dans un autre domaine pendant jusqu'en 2017, en fait. Rien à voir, une société japonaise. J'étais beaucoup entre la France et le Japon à ce moment-là. Et en 2017, je reçois un mail. C'était en novembre, mi-novembre. J'ai décidé de fermer la société. je ferme le site. Désolé, l'entreprise n'est plus à revendre, n'est plus à prendre. Et là, moi, j'étais au Japon en plus. J'étais au Japon. Je reçois le mail. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il faut que je rentre, il faut que j'aille le voir, etc. Je lui fais un mail en disant, attendez, ça serait bien qu'on en parle. Moi, je suis toujours intéressé par le projet. Il y a beaucoup de choses à faire, etc. Et la marque a commencé un peu à se développer sur les réseaux sociaux grâce aux influenceurs. Il n'y a jamais vraiment eu de marketing, mais la notoriété, la qualité des compléments a fait que, naturellement, avec l'essor des réseaux sociaux, de YouTube, d'Instagram, dans ce cercle un peu fermé d'athlètes qui recherchent la performance, la marque, c'était du bouche à oreille et beaucoup de monde en parlait. Et grâce au réseau, il y a une ouverture, on va dire, un peu plus mass market sur la marque.
Attends, excuse-moi, je te coupe, mais c'était Thibaut InShape au début, non? Qui travaillait avec Nutrimus.
En fait, non, il a jamais travaillé pour Nutrimus, mais ça a toujours été un consommateur. Et lui, il mettait la marque en avant, parce qu'il était content de la marque, etc., avant qu'il fasse sa propre marque. Et ça, des influenceurs comme ça, on en a, en fait, tout le feed game, ce qu'on appelle le feed game français, est passé par Nutrimuscle, parce que c'était la marque de référence à l'époque. Et on a même des cas, c'est assez rigolo, où certains consomment chez nous et mettent en avant d'autres marques, tu vois, parce qu'il n'y a pas de contrat, donc, mais ils commentent toujours chez nous, ce qui est assez rigolo. Ça me touche.
C'est une petite victoire personnelle.
Exactement, exactement. T'es un peu content de dire... Donc 2017, je reçois ça en novembre, j'étais au Japon, le lendemain, je rentrais en France, et là, je me dis, en fait, c'est pas possible, il m'avait pas répondu, donc j'ai envoyé le mail, il m'a pas répondu, je me suis dit, se trouve, il s'est suicidé, il est mort, il faut que j'aille le voir. Donc là, je reprends un billet de train, je refile en Belgique, voir s'il était là, et je le retrouve, il avait fait un burn-out, en fait, burn-out entrepreneurial, et il commence à me raconter, en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire, qu'est-ce qui l'a amené à ce cheminement de je ferme tout, je brûle l'usine, j'annonce à tous les clients que c'est fermé, etc. Parce que
il avait annoncé publiquement.
Il a fait un mail. Il a fait un mail moins d'une semaine après. Début décembre 2017. Donc, moi, je vais le voir. Je le vois complètement burn-out, tu vois. On pouvait plus, quoi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, à cause des réseaux sociaux, il y a eu de plus en plus de commandes. Et lui, il était dans l'optique de plus faire évoluer la société. Il avait même envoyé une lettre à Google, au siège américain de Google, pour dire « Pouvez-vous différencier Nutrimuscle de Google ?» En disant « Quand on tape Nutrimuscle, j'ai pas envie qu'on le trouve sur Google.
» J'ai trop de clients, foutez-moi la paix. Ouais,
il avait fait une lettre à Google, tu vois, en recommandé, avec la poste, jusque chez Google US, pour dire « Différenciez-moi. » Ça a pas marché, bien entendu. Non, mais c'était pour te montrer le niveau de, je pense, de détresse aussi. Tu sais, ça nous fait rigoler, mais il se retrouvait à venir à 6 heures du matin à l'usine, il repartait à 23 heures, 7 jours sur 7. Donc, c'est quelqu'un qui avait plus de vie sociale, en fait, qui a fait ça pendant les 6 dernières années. Tu vois, nous, on s'était vu en 2013, ça allait encore, nanana. Mais il commençait à être blindé en 2013 déjà. C'était le début de YouTube. YouTube, c'était quoi, 2010, quelque chose comme ça?
Ouais, je crois que c'est 2010 ou 2011, le rachat par Google. Ouais. Mais donc, c'est le début
de l'explosion. C'est à partir de là, tu vois. Ouais. 2013, ça commençait. Donc, petite progression, content. Et moi, je le revois en 2017. C'était plus le même homme, quoi. Il faisait encore de la muscu en 2013, 2017. Il pesait 50 kilos, fatigué, plus de vie sociale, vraiment compliqué. Donc, pour qu'il en arrive à ses décisions de dire « je vais couper, j'envoie à Google », j'essaye de censurer tous les articles, tout ce qui passe, nanana, c'est vraiment que t'as un problème personnel, en fait, c'est un souci. Et c'est quelqu'un qui a pas réussi à déléguer, qui voulait vraiment tout garder. Il faisait le service client, il faisait la planification, la supply, les achats, il faisait tout. Et le niveau et de perfection et de parano qu'il avait faisait que même les productions, il cachait les recettes. Personne n'avait accès aux recettes. Donc, en fait, c'était des shifts avec certains faisaient des mélanges, d'autres faisaient d'autres trucs. C'était brouillon, personne savait vraiment. Tu vois, on était à ce niveau de
secret, quoi.
De secret, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui était très parano là-dessus. Et moi, j'arrive dans un contexte où, donc, deux semaines avant, il avait deux personnes vraiment dans sa vie, on va dire, professionnelles. C'était son banquier qui avait la banque était l'établissement juste en face de l'usine et l'assureur qui était aussi juste à côté. Donc, il se voyait assez souvent, son banquier, son assureur. Son assureur meurt dans un accident de la route au téléphone pendant le travail. Ils avaient tous le même âge, tous gros travailleurs, etc. L'assureur meurt d'un accident de la route. La semaine d'après, le banquier meurt d'une crise cardiaque dans la banque. Et là, il s'est dit, en fait, on est trois.
Je me fais
semaine 1, accident. Semaine 2, crise cardiaque. Semaine 3, c'est moi. Et c'était à ce moment-là qu'il m'a envoyé le mail en disant, c'est le début de la semaine. Hein, tu vois, début de la semaine, je crois que c'était mercredi. Il s'est dit, dimanche, je claque. Tu vois, donc mercredi, j'arrête. Jeudi, je ferme l'usine. Et j'essaye de profiter samedi, dimanche. vendredi, samedi. Voilà.
Non, donc, désolé, on rigole là, mais c'est... Non, mais j'imagine c'est... la détresse du monsieur, là. Ça devait être compliqué.
Et donc, moi, j'arrive à ce moment-là. Forcément... c'est dur, quoi, parce que là, il y a zéro considération business, c'est un problème humain. Avec une personne qui a fait un burn-out, tu vois, moi, je suis pas psychologue, ou, donc, t'arrives, tu te dis comment je vais essayer de le rassurer, ou lui dire, ah, non, mais revenez plus, ou prenez un peu de temps, et puis on va organiser des shifts avec les ouvriers, on va faire en sorte que ça tourne, etc. Et en fait, lui, il a dit, je peux plus, vraiment détresse. Et je crois que c'était un samedi ou un vendredi, il envoie le mail fatidique à tout le monde en disant, suite à un trop grand nombre de commandes, nous ne pouvons plus assurer un service de qualité, nous avons décidé de fermer la boutique. Et là, forcément, t'as un effet qui est assez, un effet de rupture de stock. En fait, le client se dit, tu vois, là, tous ceux qui commandaient se disent, merde, on va tomber en rupture de stock. Et il s'est pris la masse de commandes parce que tout le monde voulait commander, faire du stock, tu vois. Nutrimus, c'est la seule marque en France et en Europe qui vend des sacs de 25 kilos de protéines, de collagène, d'acides aminés, c'est vraiment des gros formats qui, de base, sont destinés pour les professionnels. Les clubs de rugby et tout, ça leur permet d'avoir des grosses quantités à moindre coût. Et il s'est retrouvé, en fait, à avoir que des commandes de 25 kilos. Et ça, tu vois, le truc, le bad buzz, l'opération marketing, comme certains l'ont détourné par la suite en nous disant Nutrimus l'a fait une vieille opération marketing pour essayer de faire rentrer du cash, alors que derrière, tu avais... la détresse d'un homme qui était en burn-out, qui a fait 6 ans très très dur dans sa vie. Et donc ça, c'était donc novembre, fin novembre, début décembre. Moi, j'ai passé 3 mois là-bas. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais à l'usine tous les jours avec les ouvriers, avec le patron. Il voulait fermer la fin d'année. En fait, lui, c'était dit 31/12/2017, c'est la fin du truc. Ce qui s'est passé, c'est que il a vu qu'il n'était pas mort le week-end. Donc en fait, on a laissé passer.
Il a passé le bug de l'an 2000.
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, bah, il était là. Et donc lundi, il revient à l'usine. Tout le monde attendait en fait devant l'usine. Tu vois, on se dit, est-ce que il est mort, pas mort? Est-ce que ça va ouvrir ou pas? Finalement, il est revenu. Et c'était dit dans la tête, moi, je ferme au 31/12. Donc tu as 4 semaines pour racheter la société. 4 semaines pour trouver une banque qui va lever de la dette, nanana, s'entendre sur une valo, calculer le stock, impossible. Et là, je me dis, en un mois, bah, comment je fais pour le persuader de... rempiler quelques mois en plus pour qu'on puisse structurer la transaction, pour qu'on puisse faire le rachat, que tout se passe bien, etc. Il faut savoir que sur les 3 premiers mois, donc moi, je faisais les horaires de l'usine et après, je faisais mon boulot précurseur, on va dire, du télétravail où je travaillais jusqu'à plus ou moins 3 heures du matin à l'hôtel pour abattre mon travail de la journée parce que j'étais toujours dans ma société. Et après, je dormais puis je me relevais à 6 heures et j'allais à l'usine. Donc, c'était un peu compliqué sur cette période-là en ayant à côté de moi quelqu'un qui était... dépressif, tu vois, qu'on pouvait plus, quoi. C'était vraiment la fin de la fin, mais qui avait quand même la volonté de terminer l'année. 31/12, ou 30, je sais plus, enfin, dernier jour, c'est le vendredi, avant le nouvel an, là, le jour férié. On arrive, bien entendu, bah, moi, j'ai pas de banquier, j'ai pas de transaction à lui proposer.
Quoi, t'as pas réussi?
Il commence à dire, on arrête, c'est fini, moi, je brûle tout, je vais virer tout le monde, nanana, il dit à tout le monde, ne revenez plus, 2018, vous êtes tous virés, etc., etc. Et moi, donc, je dis à tout le monde, on continue en 2018, on va continuer l'aventure, vous inquiétez pas, revenez, etc. Je veux tous vous voir au 2 ou au 3 janvier, enfin, le lundi de la semaine d'après. On va continuer, on va reprendre les appros de matières premières. Il avait bloqué tous les contrats, tout était arrêté, il y avait plus de stock. Enfin, c'était vraiment, c'était pas viable, en fait. Quand tu raisonnes, je pense qu'on t'enlève la partie passion, aventure entrepreneuriale et que tu regardes le business, tu te retrouves fin 2017 avec... tu devais avoir 10 000 euros de matière première parce que tout avait été vendu aux clients, machin. Plus de contrat. Il n'y avait plus aucun contrat avec aucun fournisseur. Tu avais quelqu'un qui, légalement, avait viré tout le monde, tous les employés. Et les clients avaient été informés que la marque, c'était fini. Il y avait un gros bandeau rouge sur le site internet, un peu obvious quoi, que c'était la fin. Malgré tout, je pense que l'aventure entrepreneuriale, t'as aussi ce petit truc en plus de passion, de challenge, où tu te dis, on est arrivé au bout du bout, mais il y a encore une petite étincelle, et t'as envie de reprendre cette étincelle, t'as envie de rallumer le brasier et d'en faire un beau feu. Et à ce moment-là, je me dis, bon, moi, j'étais dans une très bonne situation. Tu vois, perso, pro, je suis bilingue japonais, enfin trilingue, du coup, parce que je parle anglais, mais ça t'ouvre des portes. Mais j'ai ce côté très entrepreneurial aussi. Dès que j'étais jeune, quand j'avais 12-13 ans, je craquais des Xbox pour que tu puisses télécharger gratuitement les jeux.
Ok.
J'étais jeune, je savais pas que c'était illégal, etc. Et de fil en aiguille, en fait, tu sais, t'essayes de toucher un peu à tout. J'ai eu la partie réseau, parce que j'étais très dans l'informatique. À ce moment-là.
T'as, moi, je craquais des calculettes. Et c'est après que je me suis rendu compte que c'était complètement illégal. Ça me fait rire, vas-y.
Voilà, c'est des erreurs. Enfin, tu découvres, hein, c'est la jeunesse, quoi. Tu apprends. Ouais. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, au plus profond de moi, j'étais toujours consommateur, d'ailleurs. Donc, moi aussi, j'avais acheté mon sac de 25 kilos. Comme tout le monde, je m'étais dit, si jamais j'y arrive pas, bah, au moins, j'aurai un peu de stock sur l'année. Et là, je me suis dit, bon, allez, on va essayer de reprendre le truc. On va faire un business case sérieux. On va se mettre avec les bonnes personnes. On va dérouler le truc. On va rappeler tous les fournisseurs. Et donc, au 31-12, j'arrive en disant, les gars, on reprend. Peu importe ce qu'il dit, on pète la porte de l'usine. On rentre dedans. On continue les productions parce que le site internet tourne. Il y a toujours des commandes. On a toujours une base de clients et on verra comment ça se passe sur le plan légal. Si jamais ils décident d'arrêter, nous virer, etc. Mais moi, je suis en mesure de pouvoir vous assurer que on peut reprendre, on peut continuer. Donc, début janvier, on arrive, 9h, on a perdu à peu près 40% des effectifs, donc qui légalement étaient licenciés, donc les mecs sont partis, tu vois, ce que je peux comprendre aussi. On attend 9h, 10h, il est pas là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pas, et puis finalement, il arrive 10h30, il sort de son pick-up en disant, espèce de petit connard, donc tu vois, très énervé, et puis finalement, il ouvre les portes. Il fait rentrer tout le monde. Allez, on va cirer l'usine, on va tout nettoyer parce qu'il n'y a rien à faire. Je vais pas vous payer si vous travaillez pas. Et en fait, c'est la reprise, tu vois. Et là, je me dis, ouais, en fait, il a accepté. Ça, c'était début 2018, janvier. Il revient énervé au possible. Mais comme il était pas mort, il a vu aussi, je pense, l'acharnement. Tu vois, la passion du truc, le fait de vouloir reprendre. Et il a dû se dire, bon, en fait, peut-être que on va pouvoir faire quelque chose. Ceci étant dit, j'ai mis un an à structurer la transaction. C'était très compliqué, très parano. Il voulait pas partager la data. Il faut me croire.
Et il avait raison. Il disait la vérité.
Oui. Ah. Je pense qu'il était très intègre. Tu vois, c'est quelqu'un d'intègre. Mais oui, j'ai des clients
trop intègres en fait,
qui sont jeunes, les types de produits. On avait accès à rien du tout. Donc ça, c'était aussi un challenge sur l'année 2018 de se dire, quand tu vas pitcher une banque, quand tu vas pitcher un fonds, t'as pas de data. Qu'est-ce que tu montres? Tu vois, t'as les bilans, mais les bilans, ça te dit rien. Donc, t'as aucune idée du mix produit. Tu sais pas identifier tes segments de clients. Est-ce qu'ils sont, ils ont tous 60 ans comme lui? Ça fait 30 ans qu'ils consomment. Et puis, dans 10 ans, ils sont plus là. Et du coup, la boîte se perd. Enfin, tu vois. 2018, ça a été ça. Pendant un an, moi, je faisais des allers-retours en Belgique pour continuer, essayer de collecter de la data, etc. Et il s'est trouvé qu'un jour, j'ai réussi à collecter la data qui nous a permis, en fait, de monter le deck. Et à partir du mois d'août, on a commencé à vraiment travailler dessus, à faire plusieurs, j'ai rencontré plusieurs établissements bancaires, plusieurs fonds, etc. Et je suis parti avec un family office, d'autres entrepreneurs, notamment la marque Patika, avec lesquels ça a bien matché. Il y avait la même volonté entrepreneuriale. Et je pense que par mon biais, ils ont vu que la marque était quand même legit et qu'il y avait une opportunité à avoir. À ce moment-là, on faisait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Là, aujourd'hui, on a plus de 40 millions d'euros. On a fait x10 en plus ou moins 5 ans parce que en fait moi j'ai vraiment mis en place je vais pas dire les basiques mais les basiques de la communication sur le marketing. Donc on a activé tous les canaux publicitaires Google, Meta avec une équipe digitale associée, on a migré le site internet qui était sur une plateforme qui avait été codée par un informaticien qui était plus dans la boîte, le truc se cassait la gueule, il y avait personne qui connaissait le code, on a migré sur une plateforme qui s'appelle Shopify qui est un peu la plateforme phare du e-commerçant et du start-upper quand tu veux te lancer. On a refait le site internet, on a déménagé l'usine. Donc, on a vraiment cette usine qui est un gros outil industriel. On a fait tout un projet de déménagement qui a été ultra intense. On a réorganisé les flux à l'intérieur de l'usine pour matcher à la façon de produire qu'on a. Donc, peut-être qu'on pourra en reparler aussi, mais on est vraiment des ayatollahs sur la qualité des compléments alimentaires. Et ça se répercute aussi dans notre système de production, parce qu'il y a des compléments. Quand tu regardes nos listes d'ingrédients, que ce soit Nutrimus, Nutri-Élément, t'as très très peu d'ingrédients. On va pas mettre de stérate de magnésium, par exemple, qui est un facilitateur pour la poudre, pour qu'elle rentre plus rapidement et plus facilement dans les machines. Donc ça, on n'en met pas. On préfère avoir une cadence beaucoup plus faible, voire manuelle, sur certaines poudres, pour qu'on puisse, nous, t'afficher dans la gélule l'ingrédient actif plus la gélule, et c'est tout. Tu vois, donc c'est très, très clean. Ça, ça vient aussi dans le fait que quand tu prends des compléments sur le long terme, bah, si dans ton complément, t'as énormément de liquéfiants, d'anti-agglomérants, etc., bah, c'est aussi quelque chose que tu prends sur le long terme et potentiellement, c'est des effets nocifs. Donc, on a vraiment cette vue de se dire, nous, on veut quelque chose qui soit très clean parce qu'on est sur une répétition, sur une habitude, sur quelque chose qu'on insère, en fait, dans sa complémentation du quotidien, dans ses habitudes. Et on veut pas avoir... tu prends un complément pour avoir des bienfaits. Tu prends pas un complément pour avoir dans 30 ans des effets négatifs parce que c'était blindé d'excipients nocifs qui sont très utiles d'un point de vue production, mais pas du tout utiles d'un point de vue humain. Donc, dans ce déménagement, on a vraiment repensé tous les flux pour simplifier, en fait, pour augmenter la productivité sans nuire à la partie complément. Donc, ça a été un gros travail. Et après, on a mis en place la machine de communication, les produits. Moi, j'ai lancé énormément de produits. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment cette appétence.
Il y avait combien de produits à l'époque?
On avait une cinquantaine de produits, à peu près 300 SKU. Donc 300, par exemple, quand tu as une vitamine en trois formats, c'est 3 SKU pour une même famille. Donc on avait à peu près 300 SKU. On est allé jusqu'à 1000 SKU, 120 familles de produits. Et là, on a un peu réduit parce que il y a des formats, tu vois, qui se vendent mieux que d'autres. On a un peu simplifié aussi. Tu as toujours ce souci de comment on simplifie pour que ça soit quand même facile à produire. Tu décomplexifies.
Everyone knows that it's not Valentine's without 1-800-Flowers.com. So whatever you do, don't forget the flowers. Right now, when you order early from 1-800-Flowers, you can get a gorgeous bouquet of assorted roses starting at $24.99. It's the perfect way to say I love you without breaking the bank. Don't put this off. Quantities are limited, so lock in your roses starting at $24.99 today at 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Et voilà, moi j'ai rajouté à peu près 70 familles de produits. J'adore la partie R&D, c'est vraiment le truc.
Ouais, ça se sent.
T'es dans le produit, tu vas dans le sourcing, tu regardes les besoins. Donc moi j'ai vraiment lancé toute une gamme santé, bien-être. C'est quelque chose que je voulais pour la marque parce que étant consommateur sur la partie performance, tu te projettes un moment sur le long terme en te disant bah l'une des composantes du pourquoi tu fais du sport, c'est alors ça va dépendre de chaque personne, mais t'as cette composante performance. T'as envie d'aller plus loin dans la performance, de te surpasser. Et tu vois, c'est un peu ta dose de dopamine, on va dire, d'arriver à battre des nouveaux records, à être plus fort en fonction du sport. Mais t'as aussi cette logique de « moi, je fais du sport pour être en bonne santé ». Et ça, c'est aussi vachement important. Et je voulais que ça transparaisse aussi dans nos compléments alimentaires. Et j'ai vraiment ouvert le portefeuille bien-être, on va dire, chez Nutrimuscle, qu'on retrouve chez Nutriélément. Et c'est aussi pour ça que j'ai fondé Nutriélément, entre parenthèses, dans cette aventure-là, c'est de se dire Nutrimuscle, c'est une marque qui est très communautaire. Je pense qu'on est très, très fort à ça, parce que j'adore, en fait, cette partie-là. Donc, on a des bons concepts, tu vois, on est de plus en plus sur YouTube, on développe des vidéos qui, c'est un peu de branding, mais qui ont un intérêt, qui vont susciter l'intérêt des viewers, sans forcément qu'on parle de compléments alimentaires. C'est vraiment, on le fait plus pour la communauté, parce qu'on aime ça. Et en même temps, Nutriélément, moi, j'avais cette optique, on va dire cette ambition d'avoir une marque qui est pas d'a priori. Le problème quand tu t'appelles Nutrimuscle, c'est que
t'as un passé. Ouais.
Déjà, t'as un passé qui est plutôt dans le body ou dans le rugby, les sports de force. En France, t'as un peu des connotations négatives. Tu vois, protéines. Très récemment, il y a eu des articles. T'as l'impression que c'est du dopage. Alors que quand tu manges un steak, il y a personne qui va te dire "Il a mangé un steak, c'est du dopage."
Non, 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 on te dit que c'est pas écolo.
Oui, c'est vrai. Mais et muscle, c'est quelque chose qui te limite aussi. T'as un nom de marque qui est fort et en même temps une force et en même temps une faiblesse. Et avoir muscle pour une clientèle peut-être plus féminine, ben ouais, ça passe pas trop.
Et je sais pas si t'as vu, en plus, il y a eu une étude, tu montrais à des gens un peu lambda, une personne, tu vois, très musclée et une personne, tu vois, juste svelte, tu vois. Et tu demandes, selon vous, lequel des deux est bête. Et le taux de gens qui répondent la personne musclée est impressionnant, quoi. C'est fou, là, la connotation qu'il peut y avoir entre musclé et idiot, tu vois. Alors que j'aime bien le dire sur ce podcast-là, mais quand même, la seule personnalité qui a réussi autant dans le business, l'entertainment, la politique et le sport, qui sont selon moi un peu les quatre piliers qui intéressent le plus les gens, tu vois. Enfin, en tout cas, quatre piliers qui intéressent énormément les gens. Bah c'est oui, c'est quand même dans le bodybuilding que cette personne a excellé avec Arnold Schwarzenegger quoi. Enfin, je connais pas d'autres gens qui ont excellé dans autant de sphères quoi.
Je pense que ça a été un peu porté par le cinéma aussi, tu vois, de dire ouais, la grosse brute, le bébête, mais
tout le monde ça pâtit un peu de cette image-là. Ouais.
Et du coup, nous, on le retrouve dans le nom. Donc, c'est une force et une faiblesse. Et moi, j'avais vraiment à cœur d'avoir un peu cette ambition de dire on est d'abord des producteurs de compléments alimentaires. On se base d'abord sur la science. On est très fort en R&D et on peut targeter des communautés avec notre expertise. Donc, on a hérité de Nutrimuscle parce que c'est un peu ma marque de cœur étant consommateur. Et puis finalement, maintenant, c'est moi qui la préside. Mais je voulais pas que un a priori, tu vois, c'est... Tu te dis, bah non, il y a muscle, donc c'est pas pour moi. C'est bête, hein, mais alors que on a toute une gamme qui est faite pour tout le monde. On a des compléments pour les femmes enceintes, on a des compléments pour les femmes ménopausées, pour les personnes âgées, qui se retrouvent chez Nutrimuscle, mais qui sont pas consommés par ces personnes-là, parce que voilà, il y a la grosse histoire derrière, le background un peu body, etc. Et donc Nutri-Élément, pour moi, c'est un peu le moyen de pouvoir nous exprimer, en tout cas sur la connaissance qu'on a, sur l'expertise qu'on a, sur une clientèle bah, qui va être beaucoup plus mainstream, on va dire, qui va être moins dans une niche, mais à laquelle on peut faire profiter en fait de notre expertise et de compléments qui sont dans cette logique de transparence, traçabilité, avec ce fort input qu'on a sur la partie R&D et industrielle. Et c'est pour ça qu'on a fait Nutri-Élément, qui est une marque très outdoor, qui est une marque routinière. Je pense que ce que tu peux avoir sur le complément alimentaire, et ça se voit beaucoup chez les personnes qui démarrent la complémentation, c'est que déjà t'as beaucoup d'a priori, t'as un peu peur en fait de consommer, mais une fois que tu l'intègres dans une routine, bah c'est comme le matin, tu te lèves, tu fais ton lit, voilà, c'est à ce niveau-là de simplicité.
Bien sûr.
Et donc voilà, ça c'est un peu la deuxième aventure entrepreneuriale. Pour reprendre un peu, là on a réussi en fait en l'espace de quelques années à monter une marque basée sur une niche forte qui avait de base une notoriété forte. Donc c'est des leviers qu'on a réactivés, en tout cas qu'on a stretché, qu'on a leveragé. On a réussi aussi à faire ce shift sur la partie industrielle, qui a été l'un des plus gros défis, en fait, parce que quand tu vois la croissance qu'on a eue sur les dernières années, quand tu fais x10 et que t'es producteur de tes propres compléments, donc dans ton propre outil industriel, t'as vraiment cette notion de capacité de production industrielle, de productivité, on a aussi la logistique qui est intégrée. Et c'est comment tu fais avec les systèmes qui sont spécialisés sur la partie industrie, bah, comment tu stretches, comment tu leverages, pour avoir une unité de production qui est capable d'absorber tous les ans 50, 60, 70% de croissance et que tu arrives à délivrer à tes clients sans avoir de rupture de stock. Tu vois, c'est la première problématique de l'industriel, en plus de se poser des questions sur comment on va débridger la communauté, par quels moyens, quel type de complément, quel discours marketing, etc.
Ok. Bon, vous avez beaucoup bossé.
Ouais, ça a été intense.
Ces 5 dernières années, là, j'ai visité vos locaux récemment, vous êtes super bien. Je voulais revenir un petit peu sur toi. Qu'est-ce que tu prends, toi, aujourd'hui?
Alors, je prends beaucoup de choses.
Ok.
Je prends annuellement l'intégralité du portefeuille produit qu'on a sur le site.
Les 120.
Les 120. Je consomme les 120 familles. Alors, j'ai vraiment des périodes spécifiques de consommation, donc je prends pas tout en même temps, tous les jours. On va plus se concentrer sur peut-être le top 3-4.
Je me disais ça au début, je croyais qu'il rigolait, en fait.
Non, sérieux.
T'es un peu Brian Johnson, là ou...
Ouais. Okay. Non, dans un certain sens. Peut-être en plus connaisseur sur la partie...
Ah, tu le trouves pas sérieux?
C'est pas qu'il est pas sérieux, il est très américain. Alors, c'est pas forcément péjoratif, mais ce que je me rends compte dans l'écosystème du complément alimentaire et ce qu'on a aussi chez les clients, et je pense que c'est exactement pareil pour toi, on en reviendra d'ailleurs un peu après, mais...
Juste après, je voulais te demander, ouais.
En fait, les gens, il n'y a pas beaucoup de transparence sur le complément alimentaire. Ça veut dire que quand tu prends un complément... Tu vas te dire, bah, je prends de la vitamine B12. Et tu vas pas te poser la question. En fait, la vitamine B12, t'as énormément de formes différentes. Et à l'intérieur de ces formes, t'as énormément de méthodes de production qui sont différentes et qui vont jouer, en fait, sur la qualité du complément. Et ça, c'est très opaque. C'est un peu peut-être le dernier mur que nous, on essaye de casser. C'est l'opacité de comment sont produits les compléments alimentaires. Mmh. Et c'est ça qui va jouer énormément sur la capacité d'un complément à marcher ou pas marcher et qui influe aussi les études. Et qu'on se rend compte...
C'est pas la même molécule, au final.
Alors, il y a une histoire de molécule, mais ça peut être la même molécule qui va pas être produite de la même manière. Et ça inclut un peu sur la qualité du complément. Et on se rend compte, au jour d'aujourd'hui, que t'as énormément... Donc, c'est normal que la personne lambda, on te dit, prends de la vitamine C, tu vois, ou du magnésium, tu vas pas te poser la question de... Est-ce que je vais prendre un citrate de magnésium, un bisglycinate, un oxyde? Tu vas pas réfléchir là parce que t'as pas cette connaissance et tu regardes sur la boîte, liste d'ingrédients, il est marqué magnésium, tu te poses pas de questions. Et en fait, ça c'est vachement important dans la partie process de décision. Et du coup, je sais plus ce qu'on disait.
Non, je te parlais de Brian Johnson et après, je t'ai demandé qu'est-ce que toi tu prends.
Et donc, Brian Johnson, c'est le client un peu typique qui va pas se poser de questions sur la forme du complément qu'il prend. Donc, c'est quelqu'un qui a un peu de connaissances parce qu'il se renseigne sur le sujet, sur les compléments longévité, mais ça s'arrête à il faut prendre du NAD, il se pose pas la question de voilà, comment il est produit, etc., etc.
Ok. Bon, pour les auditeurs et les auditrices qui savent pas, c'est un milliardaire américain qui a vendu sa boîte et qui dédie énormément d'argent à ralentir son âge, ralentir son vieillissement. Il essaye même de rajeunir. Ça lui coûte très cher. Il fait des vidéos sur YouTube. C'est presque risible. Il passe énormément de temps à faire des lumières rouges, à se développer des protocoles.
Des checks corporels.
Voilà, exactement. Il se fait réinjecter du sang de son fils. Enfin, ça part un peu dans tous les sens. Mais il y a quand même des choses intéressantes et il essaye quand même de baquer un peu ce qu'il fait par la science. Mais effectivement, il essaye tellement de toucher à tout qu'on sait plus trop ce que ça vaut, quoi.
Moi, je regardais un peu. Et puis un jour, il a sorti une vidéo en disant « J'ai rajeuni de 5 ans parce que je me suis teint les cheveux en noir. » Parce qu'il commençait à avoir des cheveux blancs. Et là, je me suis dit « Ok, tu vois, c'est le typique de l'américain. »
Okay.
Bon, bref. Mais voilà. Donc, sur les compléments que je prends, moi, j'en prends 4 quotidiennement, vraiment indépendamment des saisons, etc. Le premier, c'est les oméga-3. Je pense que c'est vraiment important de prendre des oméga-3.
Ça sert à quoi ?
Les oméga-3, c'est basiquement ce que tu retrouves dans le poisson, dans les poissons gras, donc comme le thon, le saumon, le maquereau, par exemple. Le problème, c'est que moi, j'ai pas vraiment une alimentation très poisson, de base. Et quand on regarde, en fait, les effets des oméga-3 sur le corps, donc c'est des bons lipides, en fait, c'est des bons lipides. T'as plusieurs formes d'oméga-3, mais on se concentre sur ceux de poisson. Tu vas avoir des bénéfices sur la partie cardiovasculaire, sur le fonctionnement, on va dire, normal du corps, et il y a un rôle un peu protecteur sur toute la partie cerveau, donc ça se met dans une logique un peu longévité. Tu vois, c'est un complément bien-être qui est assez important, surtout t'as des périodes en fait où c'est plus important que d'autres, notamment dans l'enfance, et autour de changements hormonaux, ça va t'aider en fait okay. À ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose que tu dois prendre. Il y a énormément d'études qui en parlent, c'est l'un des compléments les plus étudiés, où t'as un grand scientifique, y a vraiment une mise en avant des bienfaits. T'as aussi des campagnes, tu vois, qui va dire il faut bien manger du poisson, des poissons gras, c'est riche en oméga-3. Donc c'est quelque chose de très important pour moi. Donc c'est vraiment un pilier que j'ai dans ma complémentation, que je back avec un autre type d'oméga-3 qui s'appelle l'huile de krill. C'est des petites crevettes très riches en oméga, et à l'intérieur t'as naturellement t'as de la choline notamment, qui est c'est pas une vitamine, mais ça se considère comme une vitamine que tu retrouves notamment dans le jaune d'œuf. Qui vont aussi t'aider sur voilà cette partie bien-être corporel, on va dire, pour te sentir mieux. Après, je prends des minéraux. Moi, je suis très minéraux pour plusieurs raisons, mais notamment du citrate de magnésium. Je trouve assez intéressant.
Souvent citrate, du coup.
Tu recommandes. Ouais. Okay. Ouais. Tu vois, nous peut-être, je pense qu'on est l'une des seules marques qui aime bien mettre le citrate en avant parce qu'on a ce background science, connaissance, R&D. Le citrate, c'est un peu vu comme le magnésium du pauvre parce que c'est pas cher, de base, ce qui est super. Moi, je trouve que tant mieux. Surtout si tu prends beaucoup de compléments alimentaires. Le citrate, ce qui est bien par rapport à un oxyde ou un bisglycinate, hein, c'est que t'as, en fait, t'as deux molécules pour le prix d'une. T'as du citrate et du magnésium. Et le citrate, c'est un très bon basifiant. Pour le sportif, on pense toujours nos compléments sur un type de clientèle. Donc, toi, par exemple, t'es un runner, t'es un sportif. L'ennemi du sportif, c'est vraiment cette partie de, tu vas stresser ton corps, tu vas acidifier ton corps. Et le citrate, c'est un très bon moyen de réduire cette acidité à moindre coût. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est un must-have. En plus d'avoir des effets qui sont intéressants sur la digestion, trop de citrate, t'as des effets laxatifs. Mais plus tu fais du sport, plus t'as des difficultés au niveau de l'intestin. Et ça va aussi t'aider là-dessus par rapport à un bisglycinate qui est plus facile à digérer. Pour le coup, t'as pas d'effet laxatif, mais qui est moins intéressant sur cette partie sport, acidité et système digestif.
Ok. Je croyais que tous les magnésiums étaient alcalins, tu vois.
Non, parce qu'en fait, ça va dépendre de, par exemple, le bisglycinate de magnésium. Qu'est-ce que c'est? C'est un magnésium qui est lié à un acide aminé qui s'appelle la glycine, qui a des propriétés, on va dire, apaisantes. C'est pour ça que quand on dit, c'est bien de prendre la glycine pour s'endormir le soir, c'est parce que la glycine, qu'est-ce que ça te fait? Ça te réduit ta température corporelle. ce qui te met dans un état de pré-sommeil. En fait. Mmh. Donc, il y a énormément de personnes, en prenant de la glycine, elles vont mieux dormir le soir, elles vont mieux récupérer. Et c'est aussi l'acide aminé le plus important dans le collagène. Donc, c'est intéressant. Après, un bisglycinate, t'as très, très peu de glycine et tu perds les effets du citrate, en fait. Donc, okay. Pour nous, c'est moins intéressant, d'un point de vue sportif, en tout cas.
Ok. Donc, tu prends donc du citrate de magnésium, des oméga-3. T'en prends d'autres dans ton top 3, là?
Du krill.
Et ouais, du krill, tu as dit.
Du krill et après, je prends multivitamine.
Ok, complet avec tout.
Voilà,
okay,
exactement.
Ça marche.
Exactement.
Alors, moi, je voulais te dire, j'ai ma petite liste, là. Tu vas me faire un peu le diagnostic. Donc, moi, je fais 1h30 de sport par jour. J'ai une journée de repos dans la semaine. Grosso modo, c'est soit de la course à pied. Dans les courses à pied, j'ai de la course à très, enfin, on va dire à basse allure, endurance fondamentale, de pouvoir parler, ou des séances beaucoup plus intenses, tu vois, avec des séances de fractionnés, tu vois, où j'ai le goût du sang dans la bouche à la fin. Et après, mon autre moitié d'entraînement, ça va être de la force, soit vraiment de la force pure, tu vois, avec des 5x5, avec, tu vois, des bons sets de récupération, ou plutôt de l'endurance de force, un peu plus type crossfit, aerox, cross-training, bootcamp, tu vois, ce genre de choses.
Ça, tu le répartis comment dans la semaine? C'est défini ou c'est en fonction de...
Je fais confiance à ma programmation. Grosso modo, j'essaye en fait d'espacer correctement les séances de force. Enfin, je vais les rassembler, je vais faire haut du corps, bas du corps. Et après, je vais mettre un petit peu de course à pied.
Quand tu dis haut du corps, bas du corps, tu fais de la muscu, quoi? Ou c'est...
Je vais faire un focus. Okay. Ouais, je vais faire un focus, okay. Tu vois.
Soulever de poids ou c'est poids du corps, c'est
ouais,
quoi,
je vais faire une séance au poids du corps, vraiment pour travailler plutôt la partie aerox. C'est une séance avec des poids, vraiment juste pour travailler la force. Et ça, je le fais en premier dans ma semaine, quand je suis plus en forme. Et je vais plutôt travailler la partie course à pied en fin de semaine. Il y a déjà de la fatigue musculaire. Il n'y a pas eu trop de fatigue cardiaque ou cardio-respiratoire, pas trop. Et du coup, je m'en sors plutôt bien, tu vois. Et du coup, moi, je prends donc oméga 3 et multivitamine, donc ça me rassure. Magnésium, je savais pas. Écoute, qu'il y avait plusieurs types, donc j'ai envie de savoir. Mais ensuite, je prends créatine, collagène, je prends de la protéine de poids après certains de mes entraînements.
Oh là là.
Ça sent mal. J'ai pris pas mal aussi, après mon GR20, de glutamine. Est-ce que j'en fais trop?
Alors, trop ou pas assez? Tiens, ça dépend du point de vue. Ça dépend du point de vue. Mais non, t'en fais pas trop. Après, il y a peut-être des choses un peu inutiles. Je pense à la protéine de poids.
Mais j'ai pas spécialement besoin de prendre de masse non plus, tu vois.
Non, c'est pas ça. Si on revient un peu là-dessus, alors ça revient un peu sur nous qui on est. Mais moi aussi, étant un peu, je peux dire un extrémiste, mais j'ai des avis très arrêtés sur certaines choses qui sont bien entendu baquées par, tu vois, les 15 ans de lecture, d'études, de bouquins, etc. Mais tout ce qui est protéines végétales, c'est très à la mode. On a beaucoup de demandes, mais on n'en fait pas parce que ça s'assimile très mal. Parce que en fait, quand tu vas plus loin que l'étiquette un peu verte sur la protéine, les processus de production, c'est dégueulasse, très polluant, etc. Et en fait, pour un humain, je dis pas peut-être qu'une vache, tu vois, là, elle va prendre de la masse avec de la protéine de poids parce qu'elle a pas le même système digestif, etc. Mais pour nous, l'apport en fait est très faible en termes d'assimilation par rapport au prix que ça coûte, et c'est beaucoup beaucoup de marketing. Donc c'est pas quelque chose que nous on fera ou qu'on fait parce que voilà, on a une idée du type et de la qualité de produit qu'on veut avoir, et moi ce genre de truc je peux pas le, même personnellement ça me ferait du mal de mettre ça en avant. Donc non, après en fait il y a plusieurs choses. Je pense que, alors c'est un peu la question, tu vois, que tout le monde pose, qu'est-ce que je dois prendre, etc.
J'ai des questions comme ça après. Pour le coureur lambda, à 30-40 euros par mois, ouais. C'est quoi le starter pack?
Je pense qu'il y a deux choses à dissocier. T'as vraiment la partie effort sportif et après t'as la partie récupération. Donc moi je le vois vraiment comme ça parce que dans beaucoup de choses, on se rend compte que donc avec l'expérience que là où ça pêche le plus, c'est plus sur la récupération que la pratique en elle-même. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Ça veut dire que pour aller vraiment loin dans le diagnostic, normalement, moi, j'ai beaucoup de questions, en fait, à te poser pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose qui soit intéressant et personnalisé pour toi. Mais, par exemple, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu dors pas bien? Est-ce que t'as un rythme couche tôt, couche tard? Tu vois? Parce que ça, je sais que, intrinsèquement, ça va jouer sur, d'une part, ta motivation et ta capacité, en fait, à continuer à faire du sport.
Bien récupérer, oui.
Bien récupérer, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de questions comme ça sur aussi ton régime alimentaire. Tu vois, la protéine, c'est intéressant dans certains types de sports, notamment quand tu vas vraiment vouloir augmenter ta force musculaire ou ton volume. Mais si tu me dis que matin, midi et soir, tu manges protéiné, etc., peut-être que dans ton cas, bon, bah, t'en as peut-être pas besoin, tu vois. Et ça, c'est vachement important pour nous de savoir ça, avant de pouvoir te dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Là, donc, dans ce que tu m'as dit, tu prends pas du tout de sucre, de glucides.
Je m'entraîne de plus en plus à jeun, de plus en plus le matin. Au début, c'était très dur. Tu vois, au bout de 30 minutes d'une séance intense, je voyais des étoiles. Maintenant, je peux te faire une heure et demie, je peux courir 16-17 bornes avec des blocs où je me mets dans le mal. Ça passe mieux. Par contre, après, j'ai besoin de manger très rapidement un fruit ou, tu vois, de la pâte de date, ce genre de choses. Donc, je fais un peu la guerre au sucre. C'est peut-être une mauvaise croyance, mais j'ai beaucoup de troubles de l'attention. J'ai remarqué que sur mon fils, qui est complètement hyperactif et qui a, c'est difficile de voir, tu vois, à 4 ans s'il a des troubles de l'attention, mais en tout cas, il est hyperactif comme moi, je l'étais jeune. Je remarque que dès qu'il prend du sucre, son comportement devient infernal, qu'il saute partout, il pleure, il a des sautes d'humeur. Moi, si je mange un Snickers, là, dans une demi-heure, j'ai un peu mal au ventre, j'ai un peu envie de dormir et tout. Donc, le très sucré, je fais attention, tu vois, hormis pendant l'effort. Mais, ouais, tu vois, je mets un peu de côté, tu vois. Alors après, c'est aussi du ressenti. Pendant l'effort, faut être honnête, hein. Tu vois, je cours un marathon, je prends une demi-banane tous les 5 kilomètres, c'est comme ça que je cours. Là, ça se pose pas de questions, mais sur une journée normale où, tu sais, je dois poser, je dois être focus, de moins en moins, je prends de sucre rapide, quoi, de glucides forts.
Non, c'est intéressant.
Après, c'est mon ressenti, et je dis que
des gens qui ont des
estomacs différents que le mien, tu vois.
Je pense que t'as vraiment tu vois, par exemple, dans ton cas, je pense que c'est assez intéressant pour les runners, surtout si, t'es pas un runner du dimanche parce que tu t'entraînes vraiment beaucoup, en fait, tu cours beaucoup, la glutamine, ça va vraiment aider aussi sur cette partie intestinale. Donc digestion, facilité à digérer, renforcement, en fait, on va dire, l'intestin. Donc pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose que tu devrais intégrer tous les jours. C'est pas que quand t'as couru un truc, tu t'es défoncé le bide parce que t'as pas arrêté, etc. Donc ta partie à toi, où t'es quand même quelqu'un qui court beaucoup, qui t'entraîne beaucoup, c'est quelque chose que tu devrais avoir dans ta routine au quotidien. Parce que ça va vraiment t'aider, en fait, sur cette partie digestion. En plus d'avoir d'autres bienfaits, tu vois quoi. Après, il y a la course le matin. En fait, quand tu cours à jeun, c'est assez intéressant parce que il y a une adaptation du corps qui se fait. Typiquement, hein, où tu vas, le matin, déjà, t'as plus beaucoup de réserves de glycogène, mais ton corps va l'éliminer et va faire ce switch sur ce qu'on appelle les corps cétoniques, les cétones, à l'intérieur du corps pour utiliser de l'énergie. Donc, ça veut dire que tu brûles du gras qui va servir d'énergie. Donc, tu peux continuer, en fait, à aller là-dessus avec un complément. Par exemple, ça peut être des MCT. C'est de la poudre, généralement issue de noix de coco. Donc, c'est des corps gras qui vont être utilisés en énergie. Donc ça peut être un pendant à ne pas utiliser de glucides pendant l'entraînement parce que tu as des problèmes de digestion avec, parce que tu n'as pas envie de prendre de sucre par rapport à ce que tu m'as dit. Mais tu peux quand même avoir un petit boost d'énergie pendant l'entraînement. Ça, c'est assez intéressant à prendre. Donc, c'est de la poudre que tu vas mélanger avec ton eau, qui va te donner des lipides, mais qui peuvent être utilisés assez facilement en énergie.
Ok, intéressant.
Après, t'as la partie acides aminés, qui sont assez intéressantes aussi. Les acides aminés pendant l'entraînement, c'est quelque chose que tu pourrais ajouter dans ta boisson. Enfin, je sais pas comment tu cours, mais j'imagine t'as une petite boisson, un petit truc avec toi, et qui te permet d'avoir cet apport supplémentaire sur les muscles, avec une facilité de digestion qui est assez intéressante, parce que les acides aminés, bah, c'est pas des chaînes comme t'as dans les protéines, ouais. Et voilà, donc t'as plusieurs astuces si tu veux pas utiliser de lipides dans ta complémentation pour avoir un petit boost si tu penses que t'en as besoin. Après, c'est toujours pareil, si tu cours plus pour le plaisir, tu fais pas une compète, etc., moi je te conseille d'essayer, de voir si ça te fait un effet ou tu récupères mieux, etc., parce qu'en fait le principe qu'on cherche à maximiser, c'est et la course en elle-même bien sûr, mais c'est surtout la récupération post-entraînement qui va être le plus important pour que tu puisses continuer le lendemain, le surlendemain, etc., et la limitation des blessures. Donc, quand tu dis tu prends du collagène, c'est très bien. Après, ça dépend combien t'en prends. C'est quoi ta dose de collagène?
C'est une grosse cuillère à café, tu vois, par jour.
Il faudrait que tu prennes à minima une grosse cuillère à soupe.
On m'a dit que les doses n'étaient pas assez suffisantes, ouais, sur ce que je prenais. Ouais.
Généralement, c'est 10 grammes qui vont être, que nous, on va recommander pour une personne lambda, plutôt sédentaire, 20 grammes pour quelqu'un qui fait du sport. C'est un peu le ratio, sauf si tu me dis que, tu vois, par exemple, au Japon, ils adorent manger des cartilages, que ça va être frit, machin.
C'est pas encore mon truc.
Plein de collagène. Voilà. Si t'as pas ça dans l'alimentation, je te conseille d'augmenter la dose de collagène.
OK. Et créatine, c'est surcoté, sous-coté, J'ai l'impression que ça revient vachement à la mode.
Ouais, la créatine, c'est sous-coté en France. Vraiment, parce que c'est lié toujours, t'as toujours cet a priori un peu muscle, stéroïdes, dopage, qui avait été d'ailleurs vraiment mis en avant dans les années 90. Il y avait eu un petit scandale, enfin c'est pas un scandale, mais on s'était aperçu que les athlètes qui prenaient de la créatine étaient plus massifs que les athlètes qui n'en prenaient pas. C'est parce que la créatine, en fait, le premier effet de la créatine, c'est un protecteur cérébral. Donc ça n'a rien à voir avec le sport.
Ah, ouais. Je deviens plus intelligent. Enfin, presque.
Oui, c'est un protecteur. T'as énormément d'études qui ont été faites là-dessus. Notamment, sur, tu vois, quand tu vas, t'as un accident de moto, tu te casses le crâne. Complémentation en créatine, ça va t'aider, en fait, sur cette partie connexion neuronale.
Même sur un trauma crânien pour un rugbyman ou ouais. Quoi? Ok. Ouais. Ok.
Énormément d'études dessus. Tu vois, il y a une étude qui a été refaite récemment. Bon, je suis pas très pour, mais. Des études sur les animaux, mais ils prennent 5 petites souris avec des petits marteaux qui vont leur casser le crâne. Avec la même force, en fait, ils complètent la moitié en créatine, l'autre pas, et ils regardent laquelle, enfin, tu vois, comment se passe la récupération. Ça s'applique aussi aux humains, sauf qu'on va pas casser le crâne des gens, mais t'as le même parallèle. Donc, c'est de base un protecteur qu'on utilise dans le milieu du sport parce que la créatine, ça va protéger ta masse musculaire. Ça va pas te la croître, ça va te la protéger. Ça veut dire que c'est très utilisé, notamment pour les personnes âgées. Donc, les personnes âgées sont complémentées en créatine. Peut-être moins en France qu'aux États-Unis ou au Japon, mais là-bas, c'est vraiment le complément anti-sarcopénie par excellence, en plus des protéines, parce que ça va te préserver ta masse musculaire, ta masse maigre. Donc, c'est super important. Et moi, j'en prends aussi, mais plus dans une optique santé. Protection de la masse musculaire, bien entendu, mais pour, on va dire, la partie cerveau. Ah, donc, c'est vachement intéressant d'en prendre. Et c'est que c'est un complément que moi, je recommande, en tout cas. Ouais.
J'avais vu aussi que pour les coureurs, c'est intéressant, parce que justement, les coureurs sont très, très fins. Et effectivement, l'effort nécessite un peu des fois de taper dans les réserves, tu vois, sur les muscles. Et du coup, ça permettait de maintenir un peu une certaine forme de masse musculaire sans trop s'affiner et tout en continuant à avoir des performances à peu près égales, quoi.
Ouais, moi je pense que c'est super important, en fait. À partir du moment où tu fais du sport, pour moi, c'est un complément qui est pertinent. Qui est pertinent,
okay.
Ouais. Et que tu peux recommander à ta grand-mère, tu vois, pour les effets sur cette partie cerveau plus maintien de la masse musculaire.
Ok, hyper intéressant. Je voulais juste te demander là est-ce qu'il y a un complément qui est le plus alcalin, tu vois, justement on parlait d'acidité, de danger pour les sportifs qui s'entraînent beaucoup, de plus en plus commence à réaliser, je trouve, hein, tu vois, effectivement ce côté basifiant versus acidité, tu vois, acidifiant.
Moi, j'aime beaucoup le citrate de magnésium.
Ouais, OK.
Je pense que c'est vraiment quelque chose que tu peux intégrer dans ta routine, c'est quelque chose que tu peux étaler dans la journée, en fait, que tu peux prendre aussi dans ta boisson, parce que les effets laxatifs, c'est si tu en prends beaucoup sur un instant T. Mais tu peux dissocier ça, avoir une complémentation un peu plus renforcée, on va dire, en magnésium dans la journée, autour de l'entraînement, le matin, le soir, pour vraiment avoir le bénéfice, en fait, sur les effets basifiants.
Okay.
Je pense que c'est assez intéressant. Après, tu as d'autres compléments. Par exemple, un complément que tu prends pas forcément, qui s'appelle le glycérol, qui est assez connu, peut-être plus dans le milieu du cyclisme. Le glycérol, qu'est-ce que c'est? C'est un diurétique osmotique, ce qu'on appelle diurétique osmotique. Donc en fait, ça va te canaliser les masses d'eau entre la peau et les muscles pour les rabattre dans les muscles. Donc ce qui est super intéressant pour les sports d'endurance, parce que ça te permet d'avoir à disposition, donc au niveau du muscle, plus d'eau. Donc tu peux faire plus d'efforts ou tu peux aller plus loin, en tout cas dans l'endurance. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et plus d'eau disponible, voilà, ça te permet d'avoir, on va dire, les fluides qui travaillent mieux aussi et qui te permettent de durer plus longtemps. Et pour la petite histoire, ça a été détourné par dans le monde du body. Parce que le fait d'en prendre, ça te donne un aspect plus sec, parce que ça t'élimine cette eau. En fait, l'eau, elle va être absorbée par le muscle, donc t'as un aspect un peu plus arrondi. Donc c'est plus de la cosmétique, on va dire, dans le milieu du bodybuilding, alors que pour l'athlète d'endurance, c'est vraiment un complément qui est super utile et sur lequel t'as un effet direct immédiat. C'est-à-dire que t'en prends, tu vois que tu dures plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment des effets, tu vois, que tu ressens, surtout toi, j'imagine, parce que tu pratiques énormément, donc tu dois connaître un peu jusqu'où tu peux aller, ton degré de fatigue, etc.
Je vais en prendre avant un test de VMA.
Ouais, mais carrément. Et tu peux en prendre pendant la course, en fait. C'est vraiment quelque chose que tu peux boire, tu mets dans ta boisson et que tu bois tout au long parce que ça va t'aider, en fait, à moins suer et à mieux utiliser ton eau, en fait, pour la performance.
Ok. Écoute, merci du type ça, je savais pas du tout.
Avec plaisir.
J'ai envie de tester tout de suite, dès ce soir. Dans l'audience d'extraterriens, il y a beaucoup, effectivement, de gens qui pratiquent la course à pied, du trail, des sports d'endurance. Ça serait quoi, selon toi, le starter pack pour un runner qui a décidé de s'y mettre et qui aurait un budget, on va dire, entre 30 et 50 euros mensuels pour se dédier à sa complémentation. Et on va être gentil, on lui fait prendre que 3 compléments.
Alors pour moi, le starter pack du runner qui vient de se lancer, qui veut commencer à se complémenter avec un petit budget pour voir les bénéfices, on va dire, c'est dans un premier temps le collagène. Je pense que c'est vraiment important pour toutes les raisons qu'on s'est dit tout à l'heure et les bienfaits qui sont associés. C'est l'un des premiers compléments. Je dirais les vitamines, que ce soit un multivitamine ou une vitamine seule, ça peut être la vitamine C, si on prend pas de multivitamine. Et après, un choix entre oméga 3 ou multiminéraux. Surtout, moi j'aime bien les minéraux, surtout quand on fait de la course, parce que ça va aider en fait sur la partie récupération.
Ok. Sur votre site, là je me balade, je vois Camille Lacour, on en discutait, c'est un de vos ambassadeurs. Qu'est-ce qui prend un Camille Lacour aujourd'hui en retraite? Alors, bon, peut-être qu'il y a des secrets, mais...
Non, c'est assez intéressant de préciser qu'il est en retraite. Donc, Camille Lacour, tu vois, c'est un peu le cheminement logique chez nous, on va dire, parce que quand il faisait du sport de haut niveau, médaillé olympique, c'était focus performance, et donc nutrimuscles, et donc protéines, acides aminés, tu vois, BCA, tout simplement. Et là, on a un Camille Lacour qui est plus dans une optique bien-être, prendre soin de soi, avec le combo, on va dire, un peu classique, oméga 3, multivitamine, magnésium. Voilà, pour se sentir bien, pour qu'il a intégré, en fait, hein, c'est quelqu'un qui est très routinier aussi, qu'il a intégré dans sa routine matinale, dans une optique bien-être. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup de facilité, finalement, à travailler avec Camille, parce que ça s'inscrit dans cette logique de suivi de la performance dans un premier temps, puis basé sur une entreprise qui est assez sérieuse. On a prouvé, en fait, ça fait 30 ans que la marque existe sur notre marque Performance. On a prouvé le sérieux qu'on avait. On a des bons arguments sur la transparence, la traçabilité, le choix des produits, comme je te le disais tout à l'heure. Et Camille, c'est assez naturellement qu'on s'est mis ensemble, en fait, pour promouvoir la marque.
Ok. Du coup, merci pour la partie sur Camille Lacour. Mais attends, pour bien que les auditeurs et les auditrices comprennent, il y avait Nutrimus. Du coup, c'était cette marque très musculation, très fit game d'un côté. Là, on a parlé de Nutri-Element. Vous êtes beaucoup plus axé santé. Moi, dans mon audience, j'ai beaucoup de runners, tu vois, qui sont là. J'imagine... ils vont plus aller vers Nutri-Element et plutôt les crossfitters vers Nutrimuscle. Comment est-ce que tu les répartis?
Ouais, c'est un bon point. Tu vois, comme je disais sur Camille Lacour, la partie performance, médaille olympique, c'était vraiment Nutrimuscle parce que c'est une marque très orientée sur la performance avec un portefeuille de produits qui est fait pour ça. Mais à l'intérieur de celui-ci, moi, j'ai développé vraiment une gamme santé sur laquelle je voulais vraiment avoir une séparation, on va dire, avec une autre marque pour adresser un public qui va plus être, comme tu le disais, mais sport outdoor, un public bien-être, sans avoir les a priori de Nutrimuscle. Donc Nutri-Element, c'est cette ambition-là de pouvoir nous adresser à un type de client qui est différent, qui va peut-être rechercher la performance, mais qui va baser sa complémentation dans une logique bien-être, longévité et récupération. Et la marque, elle est faite pour ça, elle est faite pour les sports comme le running, comme la natation, le cyclisme. Le crossfitter, ça va vraiment dépendre dans quelle optique il fait du crossfit. Et j'aimerais te dire que c'est pareil pour les sportifs de haut niveau. Donc, si c'est une optique plus bien-être, santé, c'est Nutri-Element. On va vraiment continuer à développer un portefeuille de produits dédié sur ce secteur-là, qui fait pas forcément sens chez Nutrimuscle. Et Nutri-Element, c'est vraiment la marque sur laquelle on va beaucoup travailler les produits, notamment longévité, bien-être, récupération.
Ok, hyper clair. Bon, bah merci. Bon, fallait qu'on le précise pour que tout le monde puisse bien s'y retrouver. Je comprends mieux du coup comment est-ce que vous êtes organisé et quelle est la proposition de valeur, on va dire, de Nutri-Muscle versus Nutri-Element. Mais aujourd'hui, c'est quoi la mission de Nutri-Element?
Alors nous, Nutri-Element, la mission de Nutri-Element, on a vraiment voulu nous adresser aux gens qui ont un mode de vie actif, hein, entre le boulot, la famille, mais qui font du sport le soir ou le week-end, qui ont envie d'être au rendez-vous un peu partout et qui ont besoin en fait d'avoir une petite aide supplémentaire. En parallèle de ça, c'est des gens qui vont essayer d'avoir une alimentation qui soit saine, qui soit en phase avec ce mode de vie actif, mais on vient ajouter un peu cette petite brique sur la complémentation pour permettre en fait à cette routine du quotidien de pouvoir marcher, de pouvoir continuer à marcher. Et on a cette grosse partie, nous, qu'on appelle, on va dire, prévention, sur lequel on aime bien être positionné pour pouvoir permettre en fait de continuer le sport, surtout sur des personnes qui, que ce soit toi, que ce soit moi, on n'a plus 20 ans. On n'a plus cette fougue et cette facilité de récupération qu'on avait avant. Et avec Nutri-Element, on veut adresser ça aussi avec des compléments qui permettent en fait de continuer dans le sport et voilà, de se surpasser au quotidien. C'est vraiment la mission de Nutri-Element et ce que j'ai voulu faire aussi pour ce type de personnes dans lequel je me reconnais aussi.
Je voulais terminer, tu vois, un peu cet épisode avec des petits a priori que les gens peuvent avoir sur les compléments. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de courants rapides dans l'audience de Extraterrien. C'est pas une audience qui prend beaucoup de compléments au quotidien, même si je le pense. Et c'est pas toi qui vas me contredire. Ils devraient. Et du coup, je leur ai demandé un peu quelles étaient un peu des fois les a priori ou quelles pouvaient être les idées reçues, tu vois. Et la première que j'ai eue, c'est les compléments naturels, est-ce qu'ils sont toujours plus sûrs et plus efficaces que les compléments en synthétique? Ou est-ce que le côté naturel à tout bout de champ, est-ce que c'est peut-être dans un sujet un peu de, quand même un peu de performance, tu vois? Est-ce que ça peut être un petit peu un argument marketing? C'est difficile. Si tu me dis que vous avez 120 produits, j'imagine qu'on va pas tous les faire, mais.
Nous, on a les deux. En fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Un complément naturel, il peut y avoir plusieurs types de formules, en fait, ou de méthodes de production naturelles versus un complément de synthèse. Après, la synthèse, ça fait très petit chimiste, avec des fluides et on crée des trucs sortis de nulle part, ce qui est pas du tout le cas en fait, parce que la synthèse, généralement, ça se base sur des végétaux, qu'on fait des extractions sur des végétaux, et en fait, avec deux molécules, on va en créer une autre, à partir de généralement de végétaux. Donc en fait, on reste, c'est synthèse parce qu'on synthétise, en fait, hein. Y a pas de création à partir de matières chimiques, tu vois, sauf dans certains domaines, mais pas forcément dans le complément. Donc, naturel ou pas naturel, je pense qu'il y a deux visions à avoir par rapport à ça. La première, c'est l'efficacité du complément par rapport à nous, ce qu'on veut en retirer. Donc ça peut être l'efficacité d'une vitamine naturelle versus une vitamine synthétique. Et pour reprendre les vitamines, c'est très difficile d'avoir des vitamines naturelles. Ça commence à arriver grâce à notamment la technologie. On arrive maintenant à concentrer des végétaux, par exemple des carottes, pour en extraire la vitamine sans qu'elle s'oxyde. Et du coup, ça c'est récent. Tu vois, c'est un développement plutôt récent. Je pense que dans les 10 prochaines années, s'il faut que je te donne une tendance, on va venir à avoir beaucoup plus de vitamines naturelles qui proviennent d'extraction de végétaux parce que avec les techniques actuelles, on commence à arriver à isoler la vitamine et à pas la perdre en cours de route. Ce qui est pas le cas surtout. Donc, la synthèse, ça a du bien, ça a du mal, mais ça reste une composante prédominante dans les compléments alimentaires qui vient pallier justement, en fait, d'un manque de technologie sur des méthodes d'extraction. À l'intérieur du naturel, tu as du bon naturel et du mauvais naturel. Je te prends par exemple l'exemple des acides aminés, qui est un exemple parmi tant d'autres, mais tu as plusieurs méthodes de fabrication des acides aminés. Généralement, tu en as trois. Tu as les acides aminés de synthèse, processus, t'extrais des molécules que tu vas synthétiser ensemble et qui font une nouvelle molécule. Okay. Ça, c'est la première méthode. Tu as l'extraction. Donc l'extraction, qu'est-ce que c'est? C'est tu vas prendre par exemple des plumes d'oie, des poils de cochon, des cheveux humains, et en fait, t'extrais les acides aminés à l'intérieur. Donc ça, ça existe sur certains acides aminés. Est-ce que c'est qualitatif? Pas forcément. C'est un peu sale aussi au niveau du process. Et après, tu as la fermentation, donc de végétaux, où là, tu vas faire fermenter, typiquement, tu fais pourrir du glucose issu de maïs, par exemple, ou de betterave, et dans la putréfaction, donc dans cette fermentation, tu en extrais les acides aminés. Et en fonction des formes que tu prends, il y a un sujet de est-ce que c'est bien assimilé ou non, et de qualité. En sachant que l'extraction sur des plumes d'oie, bah, c'est naturel, parce que provenance naturelle, mais est-ce que c'est aussi qualitatif que de la fermentation d'un végétaux? Peut-être pas. Donc, mais on reste sur des compléments naturels. Donc il faut vraiment aller un peu plus loin que, oui, discours marketing, on va te dire naturel, c'est bien, parce que ça fait beau, écologie, etc. Mais dans les faits, derrière le naturel, tu peux avoir des trucs où finalement la synthèse, elle est beaucoup plus économique, beaucoup plus écologique aussi qu'un processus qui provient d'extraction naturelle.
T'as peut-être un exemple, tu vois, de produits qui pourraient être marketés comme naturels, mais qui en fait est très bullshit et très très peu qualitatif.
Ouais, on parlait tout à l'heure des protéines végétales. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais oui, ça tombe dans cette catégorie.
Ah, ok, avec beaucoup de bio, effectivement. T'as parlé d'assimilation. Comment est-ce qu'on peut savoir si le complément qu'on prend, il est bien assimilé? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce que c'est notre ressenti?
Alors, l'assimilation, c'est un peu est-ce que le complément ou l'aliment est biodisponible ou pas par rapport à notre corps d'humain, on va dire. Oui, on peut le savoir. Et il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a ta personne, ton background, tes origines qui jouent en fait sur l'assimilation. Donc ça, c'est réel. Et après, est-ce que tu vois, il y a ton génome aussi. Tu peux avoir des mutations génétiques qui font que tu assimiles moins bien qu'une autre personne. Donc ça existe et ça se ressent aussi. Et après, il y a la qualité des compléments et la forme du complément. Par exemple, si on prend, je te donne un exemple comme ça, la vitamine B12, tu as plusieurs formes de vitamine B12. En fonction de est-ce qu'elle est prise seule ou dans un multivitamine, c'est mieux d'avoir une forme différente, en fait. T'as, par exemple, t'as deux formes. Généralement, t'as la cyanocobalamine, qui est une forme qui est très, très stable, qu'on va préférer mettre dans un complexe multivitamine, parce que les interactions avec les autres vitamines font qu'elle va pas vraiment être inhibée. Et après, t'as la méthylcobalamine, qui est une autre forme de vitamine B12, qu'on va préférer prendre seule, qui est biodisponible, donc qui est naturelle, biodisponible. C'est la forme biodisponible de la cyanocobalamine. La cyanocobalamine, à l'intérieur du corps, elle se transforme en méthylcobalamine. Et après, elle est absorbée. Tu préfères la voir seule parce que dans sa forme transformée, elle a des interactions. Il peut y avoir des inhibiteurs, en fait, avec d'autres vitamines. Donc, nous, on fait vraiment ce travail de séparer, en fait, les formes en fonction du type de complément qu'on propose. L'assimilation, donc la biodisponibilité, c'est quelque chose un peu global. Et après, tu as l'assimilation en fonction de qui tu es. Par exemple, si on reprend la vitamine B12, tu as des gens qui ont des difficultés en fait à synthétiser la cyanocobalamine et à la transformer en méthylcobalamine donc sur la vitamine B12, parce que y a plusieurs facteurs. Ça peut être à cause du foie, tu peux avoir des problèmes de foie, tu peux avoir une mutation génétique, ça s'appelle MTHFR, c'est un gène particulier qui t'empêche en fait de synthétiser ça. Donc après, il y a aussi un niveau personnel, et c'est pour ça que le ressenti est très important. Et ce qui est compliqué là-dedans, ça fait partie aussi de quand tu lis des études, il faut aussi prendre ça en compte, parce que tu peux avoir des gens qui vont te dire « j'ai rien ressenti », et d'autres, avec exactement le complément, qui te disent « c'est le jour et la nuit chez moi, incroyable, etc. » Un autre exemple, c'est la caféine. En fonction de qui tu es, comment ton corps est, le taux d'absorption, d'assimilation de la caféine, c'est entre 2 et 74%. Donc, si t'es dans la tranche de « je n'assimile que 2% de la caféine du café ou d'un complément caféiné », forcément...
On a tous un pote qui peut prendre 10 cafés avant de dormir et qui
t'en prend le soir, tu dors. Tout simplement, parce qu'il n'arrive pas à assimiler la caféine. Et peut-être qu'il y en a un, il va prendre un demi-café, mais comme il est dans la tranche 70% d'assimilation, là, c'est fou, il y va. Donc oui, ça joue.
Hyper intéressant, hyper intéressant. Pourquoi des fois, les compléments peuvent avoir, tu vois, une mauvaise image, tu vois, selon toi dans les a priori, là, je te pose un peu la question qui pique, on est un peu répondu un peu dans ce podcast, mais j'ai souvent avec mes copains, il y avait quand même des gens très réticents, quoi, alors que ils savent qu'il faut bien s'alimenter et tout. Et de l'autre côté, j'avais quand même des gens qui pensent que ça compense un peu tout, tu vois. Et j'arrive pas à comprendre, tu vois, un peu cette espèce de balancier que t'as entre d'un côté, j'ai une mauvaise image des compléments, tu vois, ou des marques, tu vois, qui proposent ces compléments, ou de l'industrie un peu globale et de tout ce que ça englobe. Et de l'autre côté, bon, bah, c'est bon, en fait. Je prends un multivitamine, je prends du magnésium, je peux manger au McDo 3 soirs par semaine, tu vois. Je trouve qu'il y a un peu cette dichotomie. Je sais pas si tu le remarques aussi, tu vois.
Oui, oui, oui. Je pense qu'il y a un aspect culturel, vraiment en France, tu vois, pour avoir vécu au Japon, aux États-Unis, travailler en Angleterre, travailler là-bas. L'aspect culturel, c'est, je pense, le premier pilier des a priori. Et c'est très localisé par pays. Tu vas avoir des pays où la complémentation, c'est obvious, quoi. C'est, si tu prends pas, t'es bizarre. Nous, c'est le contraire. Je pense qu'on a vraiment un aspect culturel où on est très, je vais pas dire cartésien, mais peut-être pragmatique. T'as beaucoup de scandales qui ont été liés aux compléments alimentaires. Et ça, c'est lié aussi à l'histoire, en fait, du complément en France. Tu vois, les scandales, il y a eu pas mal de scandales sur le complément. Des compléments qui avaient été avec... on avait rajouté des substances illicites dedans. Donc après, ça sort aux infos. Du coup, ça crée quelque chose pour se dire, bah tiens, il faut faire attention parce que en fait, c'est nocif ou c'est pas bon pour la santé. Donc, je pense que t'as vraiment une base culturelle et qui joue aussi sur, tu vois, pourquoi il faut être transparent, pourquoi il faut montrer les fournisseurs, traiter les compléments comme si c'était de la nourriture. Tu vois, on dit complément alimentaire, mais pour moi, c'est de l'alimentation complémentaire. Ça vient en plus, on top, pour t'aider justement à avoir de meilleures habitudes, à te sentir mieux. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, sur les extrêmes, je pense qu'une grosse partie de ça, c'est lié au fait que il y a eu des scandales. Il y a des gens qui sont morts parce que ils ont pris, je sais pas, du booster avec de la caféine et au lieu d'en prendre une dose, ils en ont pris 50 doses et en fait, ils ont eu un arrêt cardiaque parce qu'ils se sont tapés la dose de café d'un an, un an de café en 10 minutes. Ça, c'est réel. Il y a vraiment des gens qui, à cause des compléments alimentaires, sont morts, mais c'est très limité et c'est des gens qui sont pas sérieux, qui lisent pas les étiquettes, qui vont surdoser, mais de manière... Il y a très peu de compléments quand tu surdoses, c'est nocif. Le seul vrai complément qui peut être très dangereux, c'est la caféine. Parce que là, pour le coup, des surdoses de caféine, ça peut être mortel, justement.
Ah, bien sûr.
Donc, je pense qu'il y a ça. Il y a cet effet un peu média. Quelqu'un est dopé, on fait la relation. Ah bah tiens, c'est parce qu'il a pris des protéines. C'est un peu débile, mais voilà. Donc, je pense que c'est très lié à ça. Et c'est très lié au fait que le monde du complément est très opaque. Ce que je te disais tout à l'heure, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, tu sais pas d'où ça vient. Il y a plein de méthodes de production différentes. T'en as qui sont pas forcément bonnes. T'as des rajouts de liquéfiants dans les compléments pour que ça soit facile en production, mais qui sont nocifs aussi. Donc, et après, t'as des études où tu peux avoir des articles qui te montrent que on a analysé tel complément et au lieu d'avoir X milligrammes ou X pourcents de principes actifs, bah, en fait, t'en as 5% et t'en as pas 100%. Tu vois. Tout ça fait que, en France, en tout cas, on a cet a priori négatif sur le complément. D'un autre côté, c'est pas parce que tu prends des compléments que t'as plus besoin de manger, que tu peux prendre que de la merde tous les jours et que grâce aux compléments, tu vas être sauvé. Tu vois, ça, c'est aussi un peu futile, on va dire, de penser ça. Le complément, ça vient en rajout. Le plus important, c'est d'abord d'avoir une bonne hygiène alimentaire et ça vient t'aider, en fait, on top, sur des problématiques qui peuvent être précises. Tu vois, t'as un problème de sommeil, t'as du mal à récupérer, peu importe ce que tu manges, là, c'est important. Tu en parlais du collagène tout à l'heure. Moi, je me suis cassé le ménisque en faisant du rugby. Donc, quand je cours, je sens un petit frottement parce qu'on m'a coupé la moitié. Et la complémentation en collagène, ça me permet de moins ressentir ce frottement. Donc, c'est dans une optique préventive, mais c'est super important. Et c'est aussi, est-ce que dans l'alimentation, je peux avoir assez de collagène? Bah, malheureusement, non. Moi, je mange pas du cartilage tous les jours non plus. Et quand tu manges de la viande, est-ce que tu vas manger la peau, tous ces trucs-là, les pieds de cochon, tout, bah, pas forcément. Qui sont très riches en collagène, mais pas forcément. Donc, il y a des compléments qui sont très importants dans cette logique-là, mais c'est pas parce que tu prends des vitamines que du jour au lendemain, tu peux manger McDo tous les jours. Après, c'est malheureusement, j'aimerais dire, mais...
C'était pas la pilule magique.
Exactement, il n'y a pas de pilule magique. Je pense qu'il faut avoir une approche assez sensée sur le complément. Tu ressens des compléments, tu ressens tout de suite les bénéfices. Donc, tu deviens un peu un believer, tu vois, tu te dis, ça marche sur moi. Je le ressens quand j'arrête d'en prendre, je sens que je suis fatigué, ou je sens que j'ai mal, ou ceci, cela. Il y en a d'autres, c'est plus du guess, tu vois. Tu vas te dire, les oméga-3, tu vas pas forcément ressentir des bénéfices parce que c'est plus dans une optique long terme, longévité, où toi, à l'intérieur de toi, tu te dis, bah, moi, j'ai envie de bien vieillir, j'ai envie de bien manger, d'être sportif, d'avoir un mode de vie sain, et tu vas l'inclure dans tes habitudes, en plus d'aller courir, en plus de bien dormir, etc.
Ouais, ok. Merci de partager ça. Je pense que tu vois, c'était important de remettre un peu les points sur les i, mais tu vois, je me posais la question parce que même pour être allé justement chez des athlètes de haut niveau, déjà moi c'est un peu ma révélation complément, les athlètes de haut niveau quand même, parce que t'en as beaucoup, t'arrives chez eux. Effectivement, la première fois ça fait un peu pharmacie, mais c'est presque tabou quoi. C'est presque tabou, certains, tu vois, ne le disent pas trop et même eux ont un peu, tu vois, sont pas hyper toujours à l'aise. Alors maintenant je pense que c'est en train de changer, mais au début je me souviens que ouais, j'ai fait quelques rencontres d'athlètes qui avaient des murs remplis de peau d'industrimus, tu vois. Mais qui allait pas le dire pour autant, quoi.
Non, je pense que les gros tabous en France, c'est le complément alimentaire. Moi, je le mets au même niveau que la spiritualité. Tu vois, c'est pour faire un parallèle, c'est des sujets qui sont assez tabous. Ce qui est vrai, et comme je disais tout à l'heure, c'est porté par cet environnement culturel qui fait que, tu vois, la première fois que tu vas prendre une scoop de protéines, tu trembles presque. Tu te dis, je suis en train de prendre un truc. Tu vois, c'est je pense qu'il y a ne serait-ce que de prendre une vitamine, je pense que la première fois que tu sautes le pas, alors ça dépend de ton âge, de ton background, etc., mais la première vitamine que tu prends, le premier complément, je pense que t'as un peu peur au fond de toi. Tu te dis tu vois, c'est quelque chose, c'est un geste, tu vois, c'est assez important, je pense. Et une fois que t'as l'habitude, que c'est rentré en fait dans ta routine, c'est quelque chose d'obvious pour toi. Mais ouais, c'est assez tabou chez les athlètes aussi. T'as deux types d'athlètes. Nous, on a vraiment remarqué ça chez Nutrimuscle, chez les athlètes qu'on suit. Tu en as qui n'ont aucune connaissance, mais vraiment aucune. Ou en fait, ils sont plus drivés par des coachs, des nutritionnistes qui vont leur dire « prends ci, prends ça », ils prennent sans se poser de questions. Et après, t'en as d'autres qui vont beaucoup plus loin, comme tu le disais, qui ont vraiment des armoires à pharmacie bien remplies, qui ont beaucoup de connaissances aussi. Donc, c'est un peu les deux. Ouais. C'est un peu les deux.
Ok. Bah, écoute, tu me fais une passe décisive pour la toute dernière question du podcast. Quel athlète tu me recommandes d'aller voir, justement, qui s'y connaît bien en complémentation et qui pourrait avoir des bonnes infos et ou en tout cas peut-être une routine particulière autour de la complémentation?
Ouais, j'en ai un en tête. c'est un écrivain qui est très connu dans les sports de force et l'anatomie, et avec un gros, gros background complément alimentaire. Il s'appelle Jérôme Simonet. Il est plus connu sous le nom de Michael Gundil.
Ah.
Il a écrit des livres sur l'anatomie, les mouvements de musculation, etc. Alors, qui s'adresse à tout public. C'est pas lié au bodybuilding, mais c'est si t'as envie de bien apprendre à te muscler sans faire d'erreurs, sans faire de faux mouvements, parce que c'est aussi l'une des causes principales de pourquoi les athlètes arrêtent, c'est la blessure et c'est la mauvaise exécution des mouvements. Mmh. C'est quelqu'un qui a écrit des très beaux livres sur le sujet et qui a vraiment un gros, gros background de connaissances. Tu vois, qu'à la cinquantaine, ça fait 40 ans qu'il s'entraîne. Je pense que c'est une grosse source d'inspiration et de connaissances. C'est un peu PubMed sur pattes, tu vois. Pour se faire mal.
Ben écoute, ouais, pour avoir vu ses travaux, effectivement, je serais ravi de le rencontrer. Il faudrait que je fasse un épisode avec lui. Parce que moi, c'est passionnant à écouter. Donc, merci de la recommandation. Je crois qu'on est bon.
Super.
Pour cet épisode, merci infiniment, Théo. Je me suis régalé. J'aime bien rentrer dans la technique, des fois. Tu vois, aller dans le dur et tout. Là, c'est cool parce que on est vraiment allé en détail sur chacun des sujets. Donc, je me suis régalé. Merci beaucoup. Ça a permis, je pense, de donner beaucoup d'informations très qualitatives et de montrer à quel point vous connaissez. Vous êtes aussi passionné par les sujets de complémentation.
Je pense, s'il faut retenir une chose, c'est on va plus loin que juste revendre une vitamine ou machin. On va vraiment dans le sourcing, le fournisseur, comment c'est produit, comment c'est extrait. Est-ce que c'est des extractions à l'alcool, à l'eau, comment c'est processé. Et ça, je pense que c'est vraiment notre cœur de métier qui nous permet en fait de faire des bons compléments, des choses que moi, je prends, tu vois, tous les jours. On a parlé de mes 3-4 compléments préférés, mais dans les faits, par jour, j'en prends beaucoup plus. Et voilà, c'est quelque chose que je pense qui a un intérêt, tu vois. On a toujours envie de savoir comment c'est fait, comment c'est produit. Et j'espère avoir apporté un peu la petite pierre à l'édifice sur cette partie complément et prise de conscience aussi du consommateur.
Mais écoute, je crois qu'on a rempli Paris. On
Super.
A rempli Paris pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Théo.
Avec plaisir.
Salut.
Ciao.
Everyone knows that it's not Valentine's without 1-800-Flowers.com. So whatever you do, don't forget the flowers. Right now, when you order early from 1-800-Flowers, you can get a gorgeous bouquet of assorted roses starting at $24.99. It's the perfect way to say I love you without breaking the bank. Don't put this off. Quantities are limited, so lock in your roses starting at $24.99 today at 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.